Bon, Daniel, je vais dire quelques mots d'introduction. Merci d'être revenu cet après-midi, malgré le grand beau temps qui est à l'extérieur. Et je remercie en particulier Stéphanie Lacour qui a bravé un grand nombre de difficultés pour venir de Paris à Poitiers. Merci d'avoir insisté. Merci à Philippe Pernaud aussi, lui, d'être venu de Lille, apparemment sans trop de difficultés, parce que justement, son train ne passait pas par Paris.
Il le contournait.
Et merci à Daniel qui, lui, n'a pas encore fait de voyage, mais qui va à Paris dans l'après-midi. Donc, méfiance.
Oh, j'espère que ça va aller.
Voilà, non, je crois aussi. En tout cas, merci à vous trois d'intervenir cet après-midi. Donc, on aura une après-midi raccourcie, puisqu'on a transféré une intervention qui était celle de Julie, qui devait avoir lieu dans l'après-midi. On l'a ramenée à ce matin, ce qui nous permettra de finir un tout petit peu plus tôt. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dupré, qui est poitevin. Pictave, je ne sais pas ce qu'il faut employer comme terme, Pictave pour habitants de Poitiers.
Bon, bah, je suis pas né à Poitiers, mais bon,
Voilà.
oui,
C'est Pictave depuis
j'accepte
le
le
temps.
terme.
Voilà. Daniel est directeur de recherche au CNRS. Il a été directeur du laboratoire de catalyse en chimie organique jusqu'en 2006,
2007.
7. Et puis, il est instigateur d'un grand rassemblement autour de la chimie, mais qui comprend aussi des biologistes. Autour d'une fédération de recherche qui s'appelle Réaumur et qui va devenir un
Un
institut
institut.
Réaumur. Il a dédié une grande partie de sa carrière à la catalyse. Son parcours ingénieur en Lorraine, non, c'était ça au démarrage.
J'ai, voilà, au départ, ensuite un passage de 2 ans à Lyon, avant de venir à Poitiers.
Voilà, et donc une carrière universitaire jalonnée de d'un très grand nombre de publications. Je suis impressionné. Plus de 200 publications, 11 brevets. Bravo, bravo pour ces performances. Et donc, merci de nous présenter ce qui fait l'objet de développement dans ton laboratoire, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du pot catalytique. Donc, c'est une illustration de l'introduction que j'ai faite ce matin autour des applications des nanotechnologies dans le monde de l'automobile en particulier.
Bon, merci, Yves. C'est voilà, Pocata. Voilà. Bon, ben merci. En fait, je vais parler de nanotechnologie, mais plus généralement de macrotechnologie, parce qu'avant de venir, avant d'utiliser les nanotechnologies, on verra quand même que les choses sont de belle taille. Hein, tout le monde a plus ou moins vu un pot catalytique dans sa vie, au moins d'extérieur. Donc, on est très loin de la nanotechnologie, mais à l'intérieur, on a vraiment des nanoparticules. Bon, alors une petite historique, donc très rapidement, hein, parce que c'est peut-être pas l'objet des nanotechnologies. Bon, c'est né aux États-Unis, hein, réglementation en 72. Si, hein, peut-être une petite mention, c'est la première fois à ma connaissance qu'une réglementation est arrivée avant qu'on connaisse la solution. Généralement, quand on a une réglementation qui tombe, c'est qu'il y a une technologie qui a été trouvée et qui est éprouvée. Aux États-Unis, le problème était si grave que les pouvoirs publics ont donné 5 ans, je dirais, aux constructeurs automobiles pour trouver une solution. Alors évidemment, après des cris d'orfraie, les gens se sont mis au travail et ont trouvé une solution qui a été largement améliorée par la suite. Donc au Japon, Canada et enfin l'Europe à partir de 92. Donc, la pollution automobile, je rappelle quelques chiffres. Ah, donc, avant l'introduction des pots catalytiques, bien sûr. Hein. Voilà, les NOx, les SOx, pour citer des exemples. Bon, ces chiffres datent de 90. À l'époque, il y avait énormément de soufre dans les carburants. Donc, ce qui donne l'importance de la quantité de SOx émis par l'industrie. Maintenant, ça serait très, très largement inférieur, parce que de toute façon, il y a beaucoup moins de soufre dans les carburants et dans les gazoles. Mais en revanche, du côté des NOx, c'est le transport qui tient la palme. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui sort des voitures? Bon, on a du CO2, il y a de l'eau. Alors, j'ai mis en vert parce que on verra qu'il y a deux types de polluants. Ce qu'on appelle les polluants locaux, qui sont en fait les polluants toxiques, et les polluants globaux, dits globaux. Alors, c'est du jargon, mais enfin, on va accepter le terme, qui sont en fait les polluants, les gaz à effet de serre, avec le CO2 comme étant le principal, bien sûr. Donc, on sort 12%, excusez-moi, 12% de CO2, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, etc., dans les moteurs à essence. Et les polluants, les voilà, hein, les polluants locaux, le CO, les hydrocarbures et les NOx. Le reste, c'est des choses qui venaient soit du carburant, soit des huiles. Alors, dans le moteur diesel, c'est relativement comparable, sauf un point particulier, qui est la teneur élevée en oxygène. Donc, le gaz est très oxydant dans le diesel, alors qu'il est pratiquement à la stoichiométrie, réducteur oxydant du côté de l'essence. Et on voit tout de suite qu'étant très oxydant, il sera difficile de faire des réactions de réduction, bien sûr, et en particulier d'éliminer les NOx. Bon, les polluants secondaires, justement, les globaux. Alors, il y a du CO2. Le CO2, bah, juste un petit chiffre pour le rappeler, hein. 280 ppm en 1900, 353 en 90, et puis on est à 374, je crois, actuellement. Donc, une augmentation, une bonne augmentation, qui a été largement débattue dans la littérature, voire en particulier Claude Allègre. Et le méthane, qui a également beaucoup augmenté, mais ça, c'est dû à des activités sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre. Et le N2O, et lui, a augmenté de 8%, mais l'augmentation est relativement rapide dans les 20 dernières années. Bon, l'émission mondiale de CO2, hein, 6 × 10⁻⁹ tonnes, hein, c'est quand même assez considérable. Le méthane, c'est pas négligeable du tout. Et voilà la part dans l'effet de serre des trois gaz qui contribuent pour la majeure partie à l'effet de serre, donc le CO2, le méthane et le N2O. Bon, les normes, bon, tout simplement, c'est la CEE. Il faut savoir qu'en France, les normes automobiles sont édictées par la CEE, donc c'est une norme européenne. Alors, bon, bien sûr, on a commencé par la phase 1, qui n'est pas décrite ici. Il y a la phase 2 en 96, phase 3, donc à peu près tous les 4-5 ans, les normes sont dites sévérisées. C'est le terme à la mode. Et actuellement, donc, on est à Euro 5, qui est actuel, hein, de 2009, et on est en train de préparer la phase 6, qui sera pour 2013. Donc, d'une manière générale, dès qu'il y a une augmentation de l'activité du pot catalytique, les normes sont sévérisées. Bon, les normes réglementaires, moteur diesel, c'est à peu près la même chose. Et actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, c'est exactement les mêmes normes, donc à Euro 6, exactement les mêmes normes pour le diesel et pour le moteur à essence. Il n'y a plus de différence. Bon, bien sûr, il faut tester, hein, un catalyseur et pour une automobile donnée, il faut le tester. Un test particulier, c'est parfaitement réglementé. Donc, il y a un test que vous voyez qui reproduit 4 cycles urbains avec une montée de la vitesse, etc. Donc, tout ça, c'est fait par des robots, hein, et avec un cycle extra-urbain, donc un cycle route. Donc, avec des vitesses, 19 km/h, etc., maximum, cycle route, etc. Tout ça, c'est parfaitement réglementé. Donc, chaque fois qu'un catalyseur doit être homologué, il doit subir ce test. Autre chose très intéressante que vous devez connaître, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est la température des gaz à la sortie du pot. Et bien pour l'essence, on est à peu près en régime stabilisé, hein, dans le cycle urbain, à peu près autour de 400 degrés. On ça monte à peu près à 500 degrés dans le cycle route, alors que dans le diesel, c'est beaucoup, beaucoup plus froid. Donc les gaz sortant du véhicule diesel sont très froids par rapport au véhicule à essence. Et ça impacte beaucoup, bien sûr, toute la catalyse. Bon, ben voilà la solution qui a été trouvée donc très vite pour les moteurs à essence. Donc, aux États-Unis, bien sûr, les États-Unis fonctionnent à l'essence, donc ils n'ont pas fait de recherche sur les diesels à l'époque. Donc, très vite, on a trouvé cette solution qui est le pot catalytique lui-même avec une unité de commande. Il y a un véritable ordinateur dans votre voiture. Hein. C'est sûr, ce n'est pas un gros ordinateur comme ça, c'est une petite puce, mais enfin, tout est dedans. Et il y a donc une sonde lambda, ce qui est la sonde à oxygène, pour réguler l'injection qui doit se faire à l'intérieur du moteur. Donc cette sonde lambda pilote en permanence la richesse le rapport air sur fuel, air sur essence qui doit arriver au moteur. Et donc ça, c'est fini, le vieux Delco, c'est terminé, et on a donc des régulateurs et des injecteurs électroniques. Bon, alors le catalyseur, c'est quoi? Alors j'en ai montré un, alors j'en ai amené un pour voir ce que c'est qu'en réalité, hein. C'est un catalyseur qui a eu des misères. Donc, voilà, donc c'est un bout, un élément, donc je pourrais vous passer. Il a eu des misères, c'est-à-dire qu'en fait, le pauvre conducteur qui l'a rendu comme ça aurait eu probablement de sérieux problèmes sur son pot. Mais en gros, donc, vous avez une céramique hein, qui est alvéolée, hein, donc avec des alvéoles carrées, et avec la zone qui est notée bleue ici, c'est ce qu'on appelle le wash coat, donc c'est l'enduit. Donc c'est un enduit qui contient essentiellement de l'alumine et de la sérine. C'est pour donner de la surface au système, parce que cette céramique n'a pas de surface, elle n'a que la surface extérieure, c'est-à-dire quelques centimètres carrés par gramme. Avec cet enduit-là, vous passez quand même à 100 mètres carrés par gramme. Donc, il y a du fait de la porosité du matériau, on a des très grandes surfaces. Et sur cette surface, on va mettre des petites particules. Ce sont les nanoparticules de métaux nobles, platine, rhodium et palladium. Donc, voilà une image, hein, un petit peu l'image dans toutes les dimensions du pot catalytique. Hein. Alors, voilà donc la céramique nue. Hein, là, elle n'est pas imprégnée. Il n'y a rien dessus pour l'instant. Donc, c'est le monolithe qui arrive tout frais, si j'ose dire. Et si on grossit, bon, on a cette image-là, sauf que c'est parfaitement, c'est relativement jaune. Hein. Alors, 40 à 200 canaux par centimètre carré avec des parois de 0,05. Donc, ça, c'est déjà un exploit technologique. Hein. Ce n'est pas du tout évident à réaliser et il a fallu donc des années de travail pour y arriver. Bon, un petit peu de chimie, hein, pas trop quand même, parce que sinon après le repas ça va être un peu gênant, mais enfin, chimie relativement simple, vous voyez, hein, CO plus 1,5 de O2 donne CO2, donc c'est bon, hein, on a transformé le CO en CO2, donc on a transformé un polluant. Donc en fait le pot catalytique, et on y reviendra, ne détruit pas les polluants secondaires. Il transforme les polluants primaires, toxiques, en polluants plutôt secondaires, hein, en particulier en CO2. Donc il n'y a pas d'effet sur le CO2. Les hydrocarbures, c'est pareil, sont oxydés, excusez-moi, et ensuite le NO, lui, doit être réduit. Il est réduit par des polluants qui sont présents ou par de l'hydrogène qui est également présent dans les gaz. Ces trois réactions ont donné le nom au catalyseur, qui s'appelle le catalyseur trois voies. Trois voies parce qu'il y a trois polluants à éliminer. Bon, alors les problèmes, on va les regarder un tout petit peu. Donc, c'est l'enjeu économique et stratégique. Ça, c'est très important. C'est un gros business. L'adaptabilité aux véhicules européens. Il y a des variations thermiques importantes, des risques de diminution de la surface active. Donc, on verra un tout petit peu, donc très vite, ce qu'est le frittage, l'adaptabilité au mode de conduite européen, hein, parce qu'on ne conduit pas aux États-Unis comme on conduit en Europe, et on ne conduit même pas à la limite en Allemagne comme on conduit en France, et ni en Italie, donc il y a quand même des façons de conduire qui sont tout à fait spécifiques, et enfin, il y a le gros problème, et ça c'est général, c'est la disponibilité des métaux précieux. Donc, l'enjeu économique, alors donc voilà les véhicules, alors ça c'était, j'ai pris les valeurs initiales, mais maintenant on verra que les chiffres ont encore changé. Donc il fallait équiper 4 500 000 véhicules en une année, pratiquement, hein. En France 1 million de véhicules, et le chiffre d'affaires, bien sûr, que ça a généré 1 milliard, donc de l'époque, hein, 1 milliard d'euros et 0,2 milliard pour la France. Donc là, j'ai donné un petit rappel pour le marché des catalyseurs. Donc en millions d'euros, et vous voyez que les choses ont parfaitement évolué, la dépollution tenant une large place dans le marché des catalyseurs. Actuellement, à l'horizon 2013, le marché est estimé à 18 milliards d'euros pour la vente des catalyseurs. Pas les procédés, bien sûr, là, uniquement le produit. Bon, pour montrer que c'est quand même de la nanotechnologie, bon, bien sûr, voilà une petite particule hein, qui est ici, une petite particule de métal qui est déposée sur son support. On a vu que c'était de l'alumine et de la sérine. Bon, la taille est de l'ordre de quelques nanomètres, on va voir. Ici, par exemple, j'ai pris l'exemple à une taille de 2 nanomètres. Ça veut dire que 50% des atomes sont en surface. Si on est à 10 nanomètres, 13% des atomes sont en surface. Donc, en catalyse, il n'y a que les atomes de surface qui travaillent. Ceux qui sont au cœur ne servent à rien, mais on les a payés. Donc, on a quand même intérêt à rester bien dispersés. Voilà, bon, quelques images de microscopie électronique. Vous voyez que là, il y a pas mal de particules. Donc, notre job à nous, c'est de les compter, bien sûr, hein. Donc, on les compte. Il y a des techniques pour les compter. Soit vous les comptez une par une, puis vous les mesurez avec un double décimètre, hein, sur l'image de la microscopie. Soit il y a des techniques un petit peu plus sophistiquées pour y arriver. Mais bon, l'image humaine est quand même relativement précise de ce côté-là. Donc, un seul chiffre, dans un gramme de catalyseur, il y a de 10 puissance 15 à 10 puissance 17 particules. Donc c'est un nombre qui est quand même tout à fait confortable. Et généralement, vous voyez, pour vous donner une idée de statistique, c'est un problème de statistique, on va compter 1000 particules et on dira que les 1000 particules qu'on a comptées représentent les 10 puissance 15 particules. Donc si vous demandez à quelqu'un de l'INSEE de dire est-ce que votre système statistique est valide, il va vous rire au nez, bien sûr. Mais ça marche. Avec 1000 particules, on arrive à représenter les 10 puissance 15 particules. C'est tout à fait représentatif. Ça veut dire que les particules n'ont pas de chaleur humaine, bien sûr, si j'ose dire. Elles se comportent de façon beaucoup plus homogène. Alors, on voit justement une particule de 2 nanomètres. C'est un catalyseur qu'on appelle bien dispersé. Et voilà la représentation géométrique de cette particule. Et vous voyez que ça, c'est par microscopie électronique haute résolution. On arrive effectivement, comme M. Mania l'avait montré ce matin, à voir les atomes. C'est maintenant relativement chose courante. Donc, c'est vraiment de la nanotechnologie. Bon, alors la stabilisation par dopage, je ne vais pas en décrire trop, c'est des résultats de catalyse. Alors, notre objectif, si on augmente la température, et forcément dans un pot catalytique, la température a tendance à augmenter, il y a des pics exothermiques forts. Alors, l'un des drames des pots catalytiques, ce sont les péages. Donc, c'est pour ça que je recommande aux gens de ne pas passer dans les péages. Parce que quand vous arrivez sur un péage, généralement, si vous arrivez relativement vite, à 100, je ne dirais pas 200 à l'heure, mais 120 ou 130, donc la limite autorisée, donc vous décélérez assez brutalement et il arrive un gros paquet d'un brûlé sur votre pot catalytique et la température augmente beaucoup. L'autre cas, bien sûr, dramatique, c'est quand il y a une des bougies qui ne marche plus, donc l'injection électronique de la bougie en particulier est défaillante. C'est rarement la bougie qui est défaillante, mais le système d'allumage électronique est défaillant, ça arrive. Ça, c'est très mauvais pour le catalyseur parce qu'à nouveau, une grosse quantité d'un brûlé va arriver sur le pot et ça va brûler instantanément, bien sûr, hein. Donc vous arrivez à plus de 1000 degrés facilement, voire 1200, et quelquefois ça fait fondre le pot. Donc, les particules métalliques, elles ont tendance à commencer à bouger, à se rassembler, à s'égréger et à devenir beaucoup plus grosses. On perd de la surface. Donc, il y a de plus en plus d'atomes, moins en moins d'atomes en surface et de plus en plus à cœur. Et à nouveau, donc, on perd de l'activité. Alors, c'est très important d'essayer de stabiliser le système. Donc, vous voyez, par des moyens relativement simples, en utilisant des additifs de type barium ou lanthane, on arrive à stabiliser le système. Donc ici, c'est du platine, jusqu'à 800-900 degrés. On améliore très sensiblement la stabilité du système. Ça, c'est des recherches de laboratoire, bien sûr. Alors, l'adaptabilité aux conditions de trafic, ça, c'est très important également, dans la mesure où, systématiquement, on a des variations red-ox, red en bleu, ox en rouge. Ça veut dire que, étant donné que vous avez une régulation électronique de richesse, automatiquement, vous avez c'est de l'ordre d'un hertz, pendant une demi-seconde, vous allez avoir un gaz plutôt réducteur, et pendant l'autre demi-seconde, un gaz plutôt oxydant. Et ça va alterner comme ça toutes les demi-secondes. Et à long terme, vous avez aussi des évolutions qui sont beaucoup plus lentes et qui sont dues en gros à la conduite. Bon, statistiquement, dans une voiture, sauf si vous endormez, bien sûr, vous faites quelque chose tous les 10 secondes. Donc, vous faites quelque chose, appuyez, etc. Bon, c'est une moyenne. Donc, c'est de l'ordre de 0,1 Hz. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du pot catalytique ? Vous avez un mélange dit riche. Alors, pour le constructeur automobile, un mélange riche, un mélange qui est riche en carburant, c'est-à-dire qui est réducteur. Et un mélange pauvre, ça veut dire riche en oxygène, donc qui est oxydant. Donc, pour nous chimistes, ça sera réducteur, oxydant. Alors, bien sûr, si on est réducteur, bien sûr, on ne va pas pouvoir oxyder le CO et l'hydrocarbure. Et si on est, au contraire, réducteur, on va transformer très facilement le NO par réduction. Et ça sera le contraire lorsqu'on aura passé la barrière autour du côté du pauvre, donc du côté de l'Occident. Alors bien sûr, pour que le pot marche, il faut travailler à peu près à ce niveau-là. Donc on a une fenêtre étroite de travail qui se situe à ce niveau-là pour avoir l'élimination complète de NO, de l'hydrocarbure et du CO. Alors, pour votre information, 14,6, c'est le rapport officiel entre air et essence, dans le cas d'un moteur à essence, le rapport volumétrique entre l'air et l'essence, pour avoir exactement la stoichiométrie. Donc la sonde est calculée pour ça. Bon, alors, un point important, et cette fenêtre que je rappelle était finalement au départ était très très étroite, trop étroite, on n'arrivait pas à faire fonctionner correctement le pot, et c'est pour ça que dès les années 70-80, on a introduit un matériau qui s'appelle la sérine, et j'en dirai quelques mots par la suite, et ce matériau est connu pour ses propriétés de stockage d'oxygène. Bon, si vous êtes de façon alternative entre riches et pauvres, ça veut dire qu'il faut une banque qui stocke l'oxygène. C'est-à-dire que c'est la caisse d'épargne. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le gaz, il faut qu'il y ait un matériau qui va stocker cet oxygène de façon à pouvoir le relarguer. Quand il y a beaucoup d'oxygène, on va le stocker. Et quand il y en a peu beaucoup, voire plus du tout, il faudra le rendre aux métaux nobles qui font l'oxydation. Donc, c'est vraiment le matériau tampon qui va donc permettre de fournir de l'oxygène quand il n'y en a plus du tout en phase gaz. Alors ça, c'est donc très important. Et utilisant ce matériau, bien sûr, on a réussi à élargir très fortement la fenêtre de travail, ce qui est beaucoup plus confortable au niveau de la stratégie d'utilisation de ces pots catalytiques. Donc, ce matériau-là est très important économiquement. Alors, juste une petite pub. Moi, j'ai aucune action chez Rhodium. Enfin, je peux le citer. Hein, le rôle de Rhodia à La Rochelle, qui est le leader mondial dans la fabrication des additifs à base de sérine pour les pots catalytiques. Ça méritait d'être cité puisque c'est dans la région. Alors, maintenant, il reste les métaux précieux. Hein, ça, c'est quand même un point important. Les réserves mondiales de métaux précieux estimées, bien sûr, on n'en est pas. Les chiffres exacts sont difficiles à avoir. 30 700 tonnes de platine, 26 300 tonnes de palladium et seulement 3 800 tonnes de rhodium. Donc, les trois métaux qui sont utilisés. Et vous voyez que l'essentiel des réserves sont en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud n'est pas le seul endroit où on fait du football. On a aussi les métaux nobles dans l'Afrique du Sud. Donc, alors la demande, 106 tonnes de platine, c'était donc en 92, mais ça a changé. Il y a des évolutions, mais c'est toujours à peu près les mêmes proportions. 103 tonnes de palladium et 10 tonnes de rhodium. Mais vous voyez que la chose qui est importante, c'est que la moitié du platine passe dans les pots catalytiques. Le reste, c'est pour d'autres applications, y compris la joaillerie, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'applications en électronique, bien sûr. Palladium, c'est pareil, donc 8% seulement. Mais ça a tendance à monter pour les pots catalytiques. Et vous voyez que la quasi-totalité du rhodium passe dans les pots catalytiques, ce qui est, bien sûr, ce qui fait pousser des hauts cris incertains. Bon, perspective. Bon, voilà, donc très rapidement, quelques idées sur les moteurs à essence. Bon, le convertisseur 3 voies est maintenant bien au point. Il sera nécessaire d'augmenter la longévité. Actuellement, la norme, c'est 160 000 km de longévité au lieu de 80 000. Donc, quand les pots sont arrivés, on vous garantissait le pot pour 80 000 km d'utilisation. Maintenant, c'est 160 000 km. Normalement, vous n'avez pas à changer votre pot avant 160 000 km, sauf si vous avez rencontré un péage sur la route ou si vous... Bon, donc il peut y avoir des problèmes, bien sûr. Et de plus, les nouvelles normes imposent de considérer les émissions dès le démarrage. Ça, c'est très important. Avant, on prenait les gaz. L'analyse des gaz, c'était au bout de 40 secondes après avoir allumé le moteur. Maintenant, c'est dès la première seconde. Et l'autre problème au niveau des évolutions de normes, c'est la prise en compte de plus en plus importante des polluants secondaires. Donc, évidemment, ça sera autre chose que les pots catalytiques qu'il faudra prendre en compte pour réduire la totalité des polluants, les polluants toxiques, mais également le CO2. Bon, les nouveaux catalyseurs sont à base de palladium, plus stables, sur des supports présentant une grande capacité d'oxygène. Donc, on a remplacé le cérium par des mixtes, cérium-zirconium, également fabriqués à La Rochelle, et qui donnent d'excellentes propriétés aux catalyseurs. Maintenant, le problème du diesel. Ça, on va le dire, c'est un problème typiquement français. Oui, mais enfin, c'est un problème important, parce que d'abord, il n'est pas que typiquement français, mais enfin, il est très européen. Donc, de nombreuses améliorations du moteur sont intervenues dans les 10 dernières années. Donc, en fait, on a commencé par régler le problème en améliorant considérablement le moteur diesel. Un moteur diesel du début des 90 et des maintenant, c'est le jour et la nuit. Il y a eu énormément plus d'améliorations sur le diesel que sur le moteur à essence, qui avait déjà une technologie relativement avancée. Maintenant, on reprend maintenant l'essence pour à nouveau améliorer la technologie. En particulier, bon, l'injection électronique haute pression, hein, qui est arrivée sur les diesels, et avec des injections, je dirais, multipoints, ont permis d'améliorer de façon tout à fait considérable à la fois la consommation, mais également la production de polluants. Donc, pour votre information, hein, donc cette injection électronique, injection haute pression, on a des compresseurs à 1500 bars dans un diesel. Hein, 1500 bars, donc vous avez de la technologie 1500 bars dans le Common Rail. C'est pas commun. Et on parle de monter tout ça à 2000 bars de façon à injecter le carburant de façon très précise avec des gouttelettes de plus en plus fines. Donc le trou, c'est simple, le trou étant de plus en plus petit de l'injecteur, eh bien, il faut des pressions de plus en plus fortes. Bon, c'est relativement facile à comprendre. Ce qui, en soit dit en passant, nécessite quand même des carburants de bonne qualité. Alors, mais maintenant, on a des normes quand même trop drastiques. Donc dès 1996, on a commencé à faire des pots d'oxydation. Pas de problème, parce que comme on est très oxydant, ça marche bien. Et à terme, le filtre à suie et la régénération catalytique de ce filtre. Et par la suite, et ça va être obligatoire à partir de 2013, des catalyseurs Denox, parce que, je dirais, l'amélioration du moteur ne suffit pas pour faire du Denox du diesel, donc il va falloir y passer. Bon, alors les catalyseurs NOx, alors il y a des catalyseurs de stockage, hein, donc je décris un tout petit peu, c'est des systèmes qui sont assez compliqués, qui fonctionnent en deux phases. Il y a une phase pauvre, qui est la marche normale, hein, diesel, on est pauvre, par la définition, puisqu'on est très oxydant. Donc pendant une minute, tout le NO est oxydant à NO2, qui est stocké sous forme de nitrate. Donc en fait, on stocke, ce n'est pas de la catalyse, on va stocker sur un matériau. Une fois qu'on a fait passer le gaz pendant une minute, le piège est saturé. Il faut le régénérer. Donc ça, on passe en phase riche, 2 à 3 secondes. Donc on fait une micro-injection d'hydrocarbures, on va passer en riche, et on régénère le piège. Donc en désorbant, en décomposant ces nitrates, on revient au point de départ, on revient à des NOx qui doivent être réduits dans les 2 à 3 secondes. Donc vous voyez un petit peu la technologie, ce n'est pas simple. Donc les problèmes, c'est des systèmes complexes et forcément il y a un peu de surconsommation, 2 à 3 secondes. Et la réduction à l'ammoniac qui est également probablement l'une des technologies qui a le plus de chances, en tout cas qui est pratiquement adoptée pour les véhicules lourds, les camions, et qui a quand même des chances d'être adopté, y compris pour les véhicules légers. Alors, le principe est simple. Hein. On a de l'ammoniac, on a du NO, et c'est une réaction très sélective en azote. Donc, il y a des catalyseurs qui marchent très bien pour faire ça. Bien sûr, le problème, c'est qu'on est dans un véhicule. On ne va pas embarquer une bouteille d'ammoniac. Ça ne serait pas très sain pour le conducteur. Donc, en fait, on embarque de l'urée. Alors, une solution d'urée. Le nom technique, le nom commercial, c'est AdBlue. Et voilà, l'urée, par hydrolyse, on fait l'ammoniac in situ. Donc, en fait, on embarque de l'urée, on fait de l'ammoniac. Et ensuite, cet ammoniac va réagir avec les NOx pour faire de l'azote. Donc, si on arrive à faire ça, c'est bon. Le problème, c'est que l'urée est très corrosive, la pompe est délicate. Pas question de laisser passer un peu d'ammoniac. Donc, il faut qu'elle soit très précise, parce que la concentration de NO changeant tout le temps, au niveau de la seconde, il faut que l'injection de durée suive, qu'on n'en mette pas trop, hein, etc. Donc, ce n'est pas si simple. Et la réaction est très sélective en azote, mais le catalyseur est sans métal noble. Ça, c'est plutôt l'avantage par rapport au cas précédent. Bon, alors, je vais terminer par ce transparent là, qui montre qu'est-ce qui va se passer par la suite. Hein. Le match entre l'essence et le diesel, hein, en termes de pollution, bien sûr. Donc l'essence, la pollution globale est élevée, donc le diesel consomme moins de carburant que le moteur à essence. Hein. Les gens qui ont ces deux véhicules le savent très bien. On est à peu près à 160, 165 en moyenne au niveau de l'essence actuellement, grammes par kilomètre de CO2. Et le diesel, lui, est plutôt à 130 actuellement, en moyenne, hein, toujours. Et bien sûr, il y a des véhicules qui tirent vers le bas pendant les deux, dans les deux types de moteurs. Enfin, ça, c'est la moyenne. Et l'objectif, bien sûr, en 2012-2013, ça serait de faire baisser la consommation d'essence. On n'a pas trop besoin de continuer à améliorer les polluants, puisque ça marche très bien. Hein. En revanche, au niveau du diesel, on est plutôt bon, hein, au niveau de la consommation. Et en revanche, on n'est quand même pas très bon au niveau des suies et des NOx. Donc, il faut absolument réduire cette quantité de NOx et de suies. Au niveau 50, j'ai mis 50 mg par kilomètre, hein, à peu près à 10, qui sera la norme imposée en 2013. Donc, le problème de l'essence, c'est la consommation. Le problème du diesel, c'est plutôt un problème de dépollution. Bon, rien n'empêche de continuer à baisser la consommation et de continuer à baisser la dépollution du côté essence et de continuer à baisser la consommation du niveau diesel, puisqu'on parle de véhicules autour de 120, de toute façon, qui serait la norme ultérieure, hein, imposée, voire des véhicules en dessous à 190 grammes par kilomètre. Donc, mais c'est vraiment la grosse tendance actuellement. Donc, travailler sur la consommation du moteur à essence et travailler sur la dépollution diesel. Bon, les conclusions, c'est qu'on n'a donc pas de problème majeur sur l'essence. Hein, avec nos catalyseurs, avec nos petites nanoparticules de platine, de palladium et de rhodium, marchent très bien. Le diesel peut mieux faire en dénox, ça c'est clair. Et ce n'est pas encore tout à fait au point. Et bien, également sur le filtre à particules. Est-il suffisant ce pot? Bien sûr que non. Hein. Il n'y aurait que la pollution locale, en condition d'y arriver encore. Hein. Donc CO, HC et NOx. Pas du tout la pollution globale, le CO2, les effets de serre, les gaz à effet de serre. Donc en fait, dès qu'il y a un pot, il faut bien. J'ai entendu dire, bon, le problème des pots catalytiques, c'est qu'il fait plus de CO2. Je dirais, ben oui, il en fait plus, puisqu'on convertit tous les hydrocarbures imbrûlés et le CO en CO2. Donc on en fait un peu plus. Il faut bien reconnaître, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, la seule façon de régler le problème du CO2, c'est de diminuer la consommation. Il n'y a pas d'autre. Vous pouvez écouter tous les charlatans qui parlent, la seule façon, c'est de diminuer la conso. Et également, bien sûr, ça c'est peut-être pour d'autres, hein, le vélo, les modes de transport alternatifs, etc. Bon, ça c'est. Enfin, si je me rabats uniquement sur les véhicules automobiles, c'est vraiment diminuer la consommation, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, je vous remercie.
Avez-vous des questions sur les nanoparticules utilisées dans les pots catalytiques?
Simplement, je voulais dire que la catalyse et l'explosion des procédés de catalyse sont nés des procédés de raffinage, hein, il faut bien reconnaître. C'est-à-dire que dans la Deuxième Guerre mondiale, les procédés de raffinage ont commencé à se développer de façon très importante, en particulier aux États-Unis. Certains disent que c'est grâce à ces procédés-là qu'ils ont gagné la guerre, c'est-à-dire qu'ils avaient des meilleurs carburants que les Allemands, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des carburants d'aussi bonne qualité. Et après, bien sûr, tous les problèmes d'environnement, on a élargi les problèmes, je dirais, l'utilisation de la catalyse à des problèmes d'environnement, et des problèmes de chimie stricto sensu, mais là, c'est typiquement un problème d'environnement.
Oui, il me semble avoir vu passer, il y a 2-3 ans, des études qui remettaient en cause le fait que les pots catalytiques relarguaient des nanoparticules de métaux nobles, hein, dans l'environnement et que ça risquait en tout cas de poser des problèmes d'écotoxicité. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez ou...
Pas nous directement, mais il y a des gens qui le suivent, bien sûr, des gens comme les producteurs, enfin, il y a 3 grands fabricants mondiaux de pots catalytiques, hein. Il y a plus une multitude de petits, mais enfin, les 3 grands. Bon, le principal, je dirais, c'est Johnson Matthey, c'est un Anglais qui possède les mines. Donc, c'est vrai que lui a tendance à dire, je vends quelque chose que je produis. Bon, je m'en fous un petit peu, donc j'ai intérêt à charger en métal. Bon, maintenant, c'est suivi de façon très stricte. Tout ce qu'on sait, c'est que le taux de les catalyseurs sont récupérés. Le taux de récupération, le taux de recyclage des métaux nobles est qu'en moyenne de 50%. Ça, c'est un chiffre à peu près officiel. Donc la question qui se pose, première explication, 50% des métaux nobles sont allés sur le bord des autoroutes. Deuxième explication, on ne récupère pas tous les pots. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu des deux. C'est vrai que il y a beaucoup de véhicules européens ont une deuxième vie, ont une troisième vie. C'est-à-dire qu'il y a des charters entiers de bateaux qui transportent des véhicules pour aller dans des pays où, je dirais, le niveau de vie est inférieur, hein, je dirais, en Moyen-Orient, certains pays du Moyen-Orient, en Afrique, etc. Donc, deuxième vie, et là, c'est certain que le pot n'est pas récupéré. Ils ont même une troisième vie. Donc, il y a énormément de véhicules dont on ne récupère pas le pot. Ça, c'est certain. Alors maintenant, pour avoir le chiffre exact de ce qui est réellement récupérable sur les pots, c'est très difficile. Je dirais que c'est un secret industriel, mais certains ont fait des mesures. On a trouvé du platine dans les glaces du pôle. Évidemment, les méthodes d'analyse étant de plus en plus sophistiquées, on en trouve partout. Mais bon, quand même, on peut se poser des questions. On peut en trouver sur le bord des autoroutes, c'est sûr. Si on fait des analyses, il y en aura, c'est sûr. Donc, une des causes de perte est incontestablement un tout petit peu de relargage, non pas des nanoparticules elles-mêmes, ça je peux vous rassurer, mais de la poudre, vous savez, ce que j'ai appelé le wash coat, qui est sur le monolithe, qui a tendance à partir un petit peu, avec la nanoparticule dessus, bien sûr. Donc c'est des choses de l'ordre du micron qui partent, avec des nanoparticules dessus. Donc ce n'est pas des nanoparticules isolées dans l'atmosphère. Mais bon.
Je peux rester sur le thème des métaux. Est-ce que dans ta présentation des tableaux, ça signifie aussi qu'on a des problèmes de réserve de ces métaux, de réserve naturelle, ou pas du tout ? Oui, oui. D'accord. Est-ce que ça rejoint la problématique aussi qu'on évoque de temps en temps dans les centrales nucléaires aussi ? Je crois qu'il y a des problèmes aussi de métaux.
Alors, je ne crois pas qu'on utilise des métaux nobles dans les centrales nucléaires, mais enfin, il y a peut-être du titane, des choses comme ça, l'uranium. Bah, l'uranium, bien sûr, les réserves mondiales prouvées d'uranium, elles ne sont pas extensibles. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas en tête. Les chiffres moyens sur le pétrole, c'est 40 années de pétrole. Les chiffres moyens sur le gaz naturel, c'est 65 années. Les chiffres moyens sur le charbon, c'est 160 à 200 années. Donc ça veut dire que, je peux vous le dire, c'est probablement politiquement incorrect de le dire, mais dans l'avenir, malheureusement pour nous, ça ne sera pas les biocarburants, ça sera le charbon. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, arriver avec des banderoles, les Chinois, vous empêcherez pas les Chinois de le faire. Bon. Donc, ça, c'est un problème. Et l'uranium aussi est un problème. Oui. Je pense qu'au train où vont les choses, si on redéveloppe à nouveau les centrales nucléaires, on en a, je pense, de l'ordre entre 50 et 100 ans. Donc, ça repose le problème d'autres filières, bien sûr, la récupération et les filières avancées. Mais sur les filières classiques nucléaires, c'est pas plus de 100 ans. Il faut trouver d'autres filières.
Dans le milieu du nucléaire, certains disent que si on passe à la filière surgénératrice, ouais. On avait fait un essai en France avec Superphénix, quelques problèmes.
Ça n'a pas bien marché.
Mais les réacteurs de quatrième génération, ils seront à neutre rapide. Hein.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, il y a 400 ans, quoi, sans problème.
J'espère, parce qu'en tout cas, sur les installations actuelles, c'est de l'ordre d'une centaine d'années maximum. Quoi. Donc il faut absolument passer à ces filières-là. Pour passer à 400 ans. Alors 400 ans, on me dira, qu'est-ce que c'est à l'échelle humaine ? Faudra quand même trouver, mais ça sera nos arrière-arrière-arrière petits-enfants qui s'occuperont de ce problème, on dira.
Oui, vous avez parlé d'essence ou de diesel.
Oui.
Est-ce qu'on sait comment réagissent les pots catalytiques actuels quand il y a des additifs ? Vous avez cité bio. Oui. C'est-à-dire que des productions de type agricole qui sont mélangées, comment est-ce que réagissent les pots catalytiques ?
Alors, ça a été très, très étudié, cette affaire. Hein. Donc, Je pourrais dire en gros que les pots catalytiques se sont assez bien comportés en présence de, soit de, des esters méthyliques d'acide gras, enfin les bioesters, soit avec des additifs éthanol pour l'essence. Ça ne pose pas trop de problèmes. On sait qu'il se pourrait, qu'il y ait quand même un petit peu. Parce que quand on parle, vous avez vu, on a à peu près 80%, 85% de conversion. Ça veut dire qu'il en reste quand même. Des hydrocarbures. Et ces hydrocarbures pourraient peut-être contenir un peu plus d'oxygénés, donc des aldéhydes. C'est pour ça que l'Europe aura tendance probablement à mettre en place une norme sur les aldéhydes, en plus de la norme sur ce qu'on appelle, entre guillemets, les hydrocarbures, en fait, qui sont toutes les molécules organiques. Il y aura peut-être une norme spécifique sur les aldéhydes, du fait de l'introduction de, des biocarburants qui sont tous oxygénés, bien sûr. Donc ça, c'est sûr. Donc ça sera la réponse, je dirais, du berger à la bergère. Si y a un doute, on refera une nouvelle norme. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
On va rester dans le secteur du transport en accueillant Philippe Pernaud. Dans quelques mots, il nous vient de Lille, où il est professeur donc à l'école centrale de Lille. Il est co-créateur et directeur d'un laboratoire qui est le laboratoire LEMAC, qui se trouve à l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie. Alors le laboratoire LEMAC, avec une petite particularité, c'est que c'est un laboratoire qui comprend une équipe française, mais également quatre équipes situées en Russie et en Ukraine. Et donc dans ce laboratoire, on va s'intéresser à la magnétoacoustique, notamment Philippe Pernaud coordonne là un important programme ANR sur, qui a débuté donc, par rapport au, donc, à, en 2009 par rapport à la magnétoacoustique. Et on va parler aussi un peu, on va aller au-delà de l'automobile, parler aussi un peu d'aéronautique. Hein. Donc le laboratoire, je voyais dans le CV, a déjà eu pas mal de contrats avec un certain nombre d'acteurs industriels dans le secteur de l'aéronautique. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe Pernaud.
Merci beaucoup. Donc, les présentations étant faites, je vais directement enchaîner sur l'exposé lui-même, donc, dont le titre est un petit peu plus compliqué, « Micro-nano-composants et systèmes pour les environnements intelligents, la microfluidique et les transports ». Donc, comme vous le voyez, l'exposé sera un petit peu plus panoramique que le précédent. Donc, tout d'abord, permettez-moi de présenter très rapidement l'institut auquel j'appartiens, donc, qui s'appelle l'IEMN, Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie, qui est situé à Lille, au nord de la France. Je dis ça parce que souvent, nos amis américains ont de la difficulté pour positionner où on se situe. Le laboratoire fait à peu près 500 personnes. On a un budget annuel total d'à peu près 29 millions d'euros. Ce que je voudrais simplement souligner ici, c'est que l'IEMN fait partie d'un réseau national dit de centrales de technologie, donc qui est constitué de 5 centrales. Vous avez ici les 5 sites, hein, Lille, Paris-Sud, Besançon, le pôle grenoblois et le pôle toulousain. Et que ces centrales de technologie sont les lieux où les ministères et les tutelles ont décidé d'aller mettre les très grands moyens de fabrication micro- et nanotechnologique pour la France. Et donc, ces centrales servent finalement de passerelle pour l'ensemble des laboratoires français, hein, sachant qu'il est évidemment hors de question d'aller mettre des salles blanches partout, parce que ça coûte trop cher. Hein, donc, tout a été concentré, mais ces salles blanches sont ouvertes. Donc, n'importe qui en France peut y avoir accès. Alors, voici les 5 domaines majeurs dans lesquels travaille l'IEMN. La physique des nanostructures. Donc ça, c'est vraiment de la physique amont sur les matériaux et leurs propriétés atypiques, spécialement dans le domaine nanométrique. Les micro-nano-composants et systèmes qui vont en découler. Les micro-nano dans le domaine plus particulier optique ou électronique. Les systèmes de communication et les applications micro-ondes et l'acoustique. Donc vous voyez que le mot nano apparaît plusieurs fois. C'est un petit peu la raison de ma présence ici. L'IEMN donc, possède, comme je vous l'ai dit, une centrale de technologie qui est constitué avant tout d'une salle blanche de 1600 mètres carrés dans laquelle travaillent 26 ingénieurs techniciens avec 20 millions d'euros d'équipement. Vous avez quelques photos ici des éléments les plus marquants, donc avec par exemple ici un nanolithographe hein, qui est un outil qui permet d'aller écrire aux tailles nanométriques les éléments qui vont permettre de fabriquer des composants et puis ce que j'appelle des grosses cocottes minutes donc qui permettent d'aller déposer couche atomique par couche atomique, donc avec une résolution de la couche atomique près, à peu près ce que vous voulez dans le tableau de Mendeleïev. Enfin chez nous c'est surtout des matériaux qui font partie des colonnes 3 et 5 et 2 et 6 du tableau de Mendeleïev. Bon, voilà des images supplémentaires. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cette centrale de technologie. Alors, venons-en à l'exposé. Donc, il s'agit de parler des applications des nanotechnologies et plus pour ce qui me concerne, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'institut dans lequel je suis, je vais centrer les applications sur les composants et les systèmes électroniques. Au sein de ces systèmes applicatifs, je vais mettre un petit zoom sur les environnements intelligents. Et en passant via la microfluidique, j'adresserai quelques applications dans les domaines aéronautiques et automobiles. Alors, commençons par ce qui concerne les micro-nano-technologies pour l'électronique. Tout le monde connaît, je pense, ce qu'on appelle la loi de Moore, hein, qui est finalement cette loi qui dit que pratiquement tous les 18 mois, on double le nombre d'éléments qui sont fabriqués sur une surface donnée de composants. Par exemple, en 2007, les microprocesseurs ont dépassé le milliard d'éléments, donc les constituants. Et forcément, si le nombre de composants augmente sur une surface donnée, ça veut dire que le motif de base, la résolution, diminue également. Et si on trace cette dimension ici sur une courbe en fonction des années, eh bien on voit effectivement cette loi de Moore pour laquelle on peut se poser des questions. Jusqu'à quand va-t-on pouvoir continuer comme ça à diminuer les échelles ? Alors en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une limite qui va être abordée très rapidement, puisque c'est 2015, à partir de laquelle la physique sur laquelle reposent les composants électroniques d'aujourd'hui ne va plus être valide, tout simplement parce que les dimensions des motifs élémentaires devenant tellement petits, le nombre d'électrons qui sera dans ces surfaces, dans ces volumes élémentaires, eh bien, va être de quelques unités, voire d'une seule unité, et les lois statistiques qui sont à la base de l'écriture des lois de l'électronique ne seront plus valides. Ça veut dire qu'il va falloir tout repenser, et en particulier en termes quantiques. Alors ça, on sait, et je passe évidemment tous les aspects technologiques qui fait que chaque fois qu'on veut doubler l'intégration des composants, eh bien, il faut développer les appareillages qui n'existent pas toujours pour les filières suivantes. Alors, cette progression, évidemment, implique tout un tas de recherches pour mettre en place les outils, pour préparer la physique de demain, qui permettra de faire les composants électroniques. Et c'est ce qu'on appelle le more Moore, c'est-à-dire encore plus de la loi de Moore. On va continuer hein, tant qu'on peut. Mais vous voyez que sur ce graphique, qui provient d'une feuille de route, c'est la vision européenne, en fait, hein, de la filière électronique, qui a été établi par l'ENIAC, il y a deux autres approches qui sont en train de se développer. Une approche qu'on appelle le Beyond CMOS, donc c'est finalement une idée que plutôt que d'essayer d'utiliser les concepts actuels et puis de réduire les échelles toujours plus, on va essayer d'avoir des voies complètement radicalement différentes pour élaborer les composants en partant du petit. Par exemple, je prends les atomes et j'essaye de les auto-organiser entre eux pour fabriquer des objets. Donc, il y a une voie qui se développe, qui pour l'instant n'est pas industrielle, qui reste dans les laboratoires. Et vous allez voir qu'il y a une grande multiplicité aujourd'hui d'approches dans ce domaine pour préfigurer ce qui sera l'électronique après les 2015, hein, quand on aura... quand on ne sera plus capable finalement de travailler avec l'approche actuelle. Et une autre approche ici qui est appelée le More than Moore, qui a pour objectif non plus de réduire forcément les échelles, mais en restant aux échelles actuelles, par une diversification notamment des matériaux et des phénomènes physiques qu'on va intégrer dans les composants, d'essayer de leur apporter plus de fonctionnalités. Alors je vais vous donner quelques exemples ici et là de ce que l'on peut faire. Alors, dans le More Than Moore, donc le Beyond CMOS, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de quels seront les choix parmi toutes les possibilités qui ont été déjà imaginées, plus toutes celles qu'on n'a pas encore imaginées, qui vraiment auront une réalité industrielle. Alors, on parle beaucoup de nanophiles, par exemple les nanophiles de silicium, on parle beaucoup de nanotubes, on a parlé des nanotubes de carbone tout à l'heure, de la spintronique, etc., etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà chez les industriels, ici c'est un transparent qui vient de chez Intel, on a déjà programmé une feuille de route au moins jusqu'à 2017, vous voyez. Hein. Vous voyez ici cette frontière à 2015 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et déjà, on envisage que la technologie qui sera mise en place ici avec une résolution de 3 nanomètres, eh bien, on va essayer de la faire avec les nanotubes ou les nanophiles. Alors voilà un exemple d'aujourd'hui. Donc, avec un résultat. Donc, au passage, c'est chez nous que ça a été fait. Un petit coup de pub au passage. Donc, qui concerne un transistor à effet de champ, qui a pour objectif de travailler le plus haut en fréquence possible. Et ceci a été rendu possible grâce à l'introduction de nanotubes de carbone dans la structure de transistor à effet de champ. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'ici, dans la structure du composant, vous avez les nanotubes de carbone, là, ce qu'on appelle CNT, qui ont été introduits. Ces nanotubes de carbone, vous pouvez les voir ici sur une photo prise au microscope électronique, hein, vous voyez une forêt de nanotubes, c'est un agrandissement de plus en plus important qui a été fait. Et c'est justement toute la difficulté, c'est que des gens qui ont travaillé sur les nanotubes, il y en a plein, qui en ont fait un et qui ont étudié ses propriétés, il y en a plein. Mais la question, c'est que si vous voulez en faire un composant, un, ça ne suffit pas. Bien souvent, on est obligé d'en avoir tout un tas. Quand je dis un tas, c'est des millions. Et la question, c'est comment faire en sorte qu'ils soient tous alignés, auto-organisés, etc. Alors ça, c'est le grand succès de l'activité de mes collègues. D'accord. Et tout repose pour obtenir la très très grande rapidité de ces composants et en particulier la fréquence très élevée ici dans le domaine des micro-ondes de fonctionnement de ce composant, c'est le fait que dans les nanotubes, on a une très très grande mobilité des électrons. Comme ils vont très vite, eh ben on peut faire de la haute fréquence. Voilà, alors je passe sur les détails technologiques. Simplement, ce que je dirais, c'est qu'en collaboration avec le CEA, eh bien, il a été possible de multiplier en 3 ans par 10 la fréquence de travail de ce composant, qui est arrivé à 30 gigas. C'était déjà un record en 2007, vous voyez. Et je peux vous dire que juste au mois de décembre 2009, cette fréquence a atteint 80 gigahertz. Je ne l'ai même pas encore mis sur le transparent, tellement c'est récent, je n'ai pas eu le temps de m'adapter. Ça va trop vite. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que tout ça, ça marche aussi sur des polymères, parce que la technologie de dépôt ici et de fabrication de ces nanotubes, elle fonctionne à basse température, et donc c'est compatible notamment avec les plastiques. Et ça, c'est intéressant pour l'électronique grand public. Et comme j'avais dit que je parlerais d'environnement intelligent, eh bien, justement, voilà une brique de base qui va servir à ces environnements intelligents. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est que vous savez déjà qu'on essaye de faire de l'électronique sur substrat souple, donc par exemple du polymère ou des choses comme ça. Il existe des réalisations concrètes, par exemple des écrans de télé qui sont, que vous pouvez rouler, embarquer sous votre bras comme un poster. D'accord. Mais cette électronique, elle est en général assez peu performante. Et donc, en appliquant les idées du transparent précédent, avec des nanotubes de carbone sur du substrat flexible, vous pouvez obtenir la flexibilité et la très grande fréquence de travail, et donc apporter du composant qui va être capable de travailler dans le domaine des micro-ondes. Micro-ondes, c'est typiquement ce qui est utilisé pour faire de la communication sans fil, hein, c'est vos téléphones mobiles, mais plus tard, ça sera du capteur intelligent ou des réseaux de capteurs intelligents distribués qui communiqueront entre eux. Et là, il est important d'avoir le composant haute fréquence qui va permettre de faire cette communication. Et qui plus est, c'est flexible, parce qu'on veut en mettre dans vos vêtements, on veut le mettre comme patch sur votre corps pour les sportifs, par exemple, ou toute autre application que je ne sais même pas imaginer, dans vos papiers peints, etc., qui préfigure les habitats de demain. Alors, un autre exemple, ici, j'ai fait le Beyond CMOS, une autre approche qui est le More Than Moore, donc cette fois-ci, on ne descend plus en échelle, mais par contre, on essaye d'apporter de la fonctionnalité. Ici, vous avez un exemple, c'est encore fait par des collègues du laboratoire, où vous avez une base de temps qui va remplacer le quartz, qui est intégré au sein d'un transistor, qui lui-même est un transistor à effet de champ, encore une fois. Hein, donc, juste pour rappeler le contexte, encore une fois, en électronique, on a souvent besoin d'une base de temps. C'est souvent fourni par un quartz. Le quartz, c'est souvent un élément qui est à part, quelque part dans le composant, et puis vous avez les transistors qui sont ailleurs. Ça prend de la place. Et la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas intégrer tout ça dans un seul objet ? Ça a été fait de la façon suivante. Vous avez un transistor à effet de champ classique, mais ici, au niveau de la grille, vous avez cette poutre qui est doublement encastrée là et là et qui est libérée partout ailleurs, qui est une poutre mobile qui va servir de vibrateur. Et donc, elle va se mettre à vibrer comme ça, hein, d'accord, pour venir moduler le canal et faire la base de temps à l'intérieur du transistor avec l'amplification qui est associée de façon intégrée. Donc voilà, par exemple, comment on peut faire du Morse and Moore en intégrant à la fonction déplacement de l'électron une fonction mécanique de vibration de cette poutre encastrée. Je quitte le domaine de l'électronique pour aller vers quelque chose qui est plus fluidique, bien qu'on l'intègre toujours dans le Morse and Moore. Et ici, il s'agit de faire des électrosprays pour faire de la spectroscopie de masse. Donc ça, c'est dans un contexte des laboratoires sur puce, hein, pour faire de l'analyse sanguine, par exemple. Et le but, c'est d'essayer de gagner en sensibilité. Alors en fait, on prend une petite goutte de liquide, il faut la vaporiser pour pouvoir en faire une analyse de spectroscopie, et plus la goutte est petite, et mieux c'est pour la sensibilité du système. Et pour faire cette goutte petite, eh bien, il faut faire des pointes qui vont vaporiser cette goutte, les plus pointu possible pour avoir un effet de champ à l'extrémité qui est le plus grand possible. Et donc, c'est ce qui a été fait grâce aux nanotechnologies. Vous voyez ici, vous avez la dimension des pointes, hein, qui diminue et est passée en dessous du micron pour arriver à quelques dizaines de nanomètres aujourd'hui. Et avec donc une sensibilité qui est 50 fois plus sensible que ce qui a été fourni par la pointe commerciale de la même époque. Voilà. Alors, toujours dans le domaine de la nanofluidique, il est bien connu que la nature a fait des systèmes qui sont naturellement nanostructurés, dans le but, par exemple, de faire des surfaces hydrophobes ou superhydrophobes. Donc, sur la feuille de lotus, vous voyez ici qu'on a effectivement une nanostructuration de la surface. Il y a un film de cire qui est ajouté. Et finalement, ça permet aux gouttelettes de ne pas accrocher la surface et d'être évacuées par leur propre poids, hein, de façon facile. Alors l'homme essaye toujours de reproduire et de s'inspirer de ce que la nature lui offre. Et donc je vais vous montrer ici qu'avec des nanofils de silicium, au laboratoire, il a été possible de faire croître ces nanofils sur une surface pour la rendre également hydrophobe. Et donc voilà une petite animation filmée là, qui vous montre dans un premier temps, quand il n'y a pas de nanophile, une goutte qu'on laisse tomber sur la surface, et vous voyez que cette goutte, elle accroche la surface et n'en décolle pas. Et si vous faites le traitement avec les nanophiles, et bien vous allez voir que cette goutte, elle rebondit et décolle complètement de la surface, parce qu'elle ne s'accroche pas à cette surface. Et après, vous avez une dynamique de goutte qui est assez intéressante par elle-même, mais qui dépasse le cadre de l'exposé. Une autre petite vidéo, je sais que les gens sont très friands de ça, malheureusement les logiciels ne veulent pas toujours faire ce que je leur demande, donc je suis obligé de quitter l'application pour aller vers un autre logiciel. Et ici l'idée c'est que sur une surface qui a été traitée, on vient mettre une goutte, ici c'est de l'eau distillée, la surface elle est aussi faite de nanophiles, et là avec ce qu'on appelle un transducteur, on va envoyer des ondes acoustiques de surface ici, qui vont se propager de la droite vers la gauche de l'écran. Alors dans un premier temps, la puissance des ondes acoustiques est faible, donc on fait des guilis-guilis à la goutte, vous voyez, hein, c'est un petit peu secoué, mais ça ne lui fait pas bien mal. On augmente la puissance, vous allez voir que les guilis-guilis, ça commence à être un petit peu plus embêtant pour cette goutte, on voit déjà qu'elle se déplace un tout petit peu, et quand vous allez voir la suite, vous verrez que ça dépasse tous les dessins animés, même de chez Disney. À l'IEMN, on fait nettement mieux. Et vous allez voir cette goutte qui va se déplacer avec un processus de déplacement assez spectaculaire. Sachant que la physique d'interaction de l'onde avec la particule liquide qui est ici est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui n'est pas encore totalement expliqué, et sur laquelle il y a une très très jolie physique des petites échelles, hein, qui est étudiée. Alors on va de plus en plus fort 2,51 watts. Vous allez voir que la goutte va faire des sauts extraordinaires, se séparer, se recombiner. Voilà. C'est très joli. Le film a été primé. Il est dans les services vidéo du CNRS, envoyé partout et présenté partout. Alors 10 watts, on était à 2,5 avant. D'accord. Donc là, évidemment, on fait de la projection, de la vaporisation, etc. Donc voilà des illustrations sur cette fluidique aux petites échelles, donc avec ici l'association d'une surface hydrophobe, d'accord, et la combinaison avec une onde. Alors évidemment, tout ça a une perspective applicative derrière, bien sûr, qui est encore une fois souvent bio, puisque le but finalement c'est d'aller adresser ces gouttes dans des micro-canaux et des laboratoires sur puce au bon endroit, et on a un moyen par les ondes acoustiques de le faire, et avec des traitements de surface pour éviter que la goutte s'accroche sur ces surfaces. Mais il y a plein d'autres applications dans le domaine de la microfluidique au sens large. Alors, toujours dans le domaine du Morse and Moore, une grande tendance aujourd'hui, c'est d'essayer d'associer aux structures silicium ou autres des matériaux actifs. Donc, matériaux actifs comme les piézoélectriques, par exemple, qui sont des matériaux qui ont la propriété de se déformer quand on les plonge dans un champ électrique. Et vous avez l'équivalent en magnétisme, ça s'appelle la magnétostriction. On sait même faire des magnétostrictions géantes. Et finalement, voilà typiquement de quoi il s'agit, cette couche qui est en violet foncé. En fait, c'est 100 couches qui sont empilées les unes sur les autres et qui font chacune 5 nanomètres d'épaisseur, avec une alternance de matériaux qui sont des terres rares, des matériaux qui sont des matériaux magnétiques doux, et qui sont tels que si vous plongez ce machin dans un champ magnétique, eh ben, il se dilate, il se contracte, et parce qu'il est... sur un système qui peut être par exemple ici une poutre encastrée ou ça pourrait être une membrane, eh ben, je vais réussir à la plier pour faire un actionneur. À l'envers, si je plie la structure, en détectant les variations d'aimantation dans la couche, je peux faire un capteur. Et donc on peut par exemple ici faire des modes de flexion, des modes de torsion, d'accord, avec ces structures. Alors pour faire quoi ? Bah, typiquement ici vous avez une application optique. C'était dans le cadre d'un radar anti-collision laser qui avait été développé pour une entreprise japonaise. Et finalement, vous avez cette poutre, l'encastrement est là, elle est libre à l'autre extrémité. On vient mettre le matériau actif ici sur l'encastrement. On vient mettre un miroir à l'extrémité pour réfléchir le faisceau optique. Voilà quand c'est tout monté avec la bobine qui va créer le champ, le spot laser, et puis la déflexion du spot laser dans un sens dans l'autre en utilisant les deux modes d'excitation par le matériau actif de cette structure. On pourrait imaginer mettre cette structure sur une membrane mobile ici, par exemple un micron de silicium, hein, donc ça c'est un substrat de silicium qui a été micro-usiné, on fait une cavité, on envoie de l'air par ici, on éjecte de l'air par là, on vient moduler le volume de la cavité d'air, et ça délivre des jets pulsés ici en sortie. Alors pour faire quoi ? Bah, par exemple, pour aller tapisser l'intérieur d'un réacteur, contrôler l'écoulement d'air qui passe dans le réacteur et essayer d'améliorer le rendement, par exemple, pour avoir moins de gaz toxiques, les mêmes NOx qu'il y avait dans l'automobile, par exemple, qui existent aussi en aéronautique. Alors, on parlait d'environnement intelligent, on a parlé de réseaux de capteurs communicants distribués, ceux qu'on mettra dans vos vêtements, sur vos murs, etc. Et la problématique est la suivante, c'est que ces petits capteurs, on veut les faire les plus petits possibles, les moins chers possibles et en plus grande quantité possible. Et ils doivent être autonomes. Ça veut dire que typiquement, ça ressemble à ça. Alors, il faut imaginer qu'à terme, ce truc, ça fera moins d'un millimètre, hein, peut-être moins de 100 microns. Et donc les éléments élémentaires qui sont dessus seront évidemment encore plus petits, d'où les nanotechnologies. Et on aimerait bien que sur ce truc, il y ait la source d'énergie, typiquement une batterie, des capteurs qui mesureront ce que vous voulez, la température de votre corps et je ne sais quoi d'autre, une intelligence locale, et puis la partie communication. Les points critiques dans cette structure, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, il y a une très grosse activité dans le domaine des environnements intelligents qui va porter sur les micro-sources d'énergie pour essayer finalement d'avoir une autonomie qui, à terme, d'après les cahiers des charges des applications les plus typiques, devrait être de 10 ans. Parce que si vous avez des millions de capteurs comme ça qui sont distribués, imaginez, on arrive par hélicoptère, on prend un gros sac de capteurs, on les balance dans une forêt pour faire, par exemple, de la surveillance de feu, hein, de départ de feu, bah, aller changer les piles de ces millions de capteurs tous les deux ans, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, finalement, ces capteurs, on les abandonne. Hein, et il faut que la batterie soit capable de tenir au moins une dizaine d'années. Du coup, les micro-sources d'énergie sont... Donc une activité extrêmement importante, c'est sur la technologie fuel cells, les piles à combustible, merci. Et une façon d'améliorer ça, c'est de nanostructurer les électrodes, d'accord, qui vont avoir pour effet finalement de reculer les limites de ces structures. Et puis par ailleurs, on va essayer de récupérer l'énergie ambiante. Alors par exemple l'énergie optique, donc l'énergie lumineuse. Et là encore, il existe des capteurs de lumière qui permettent de faire de la conversion énergétique pour recharger les batteries. Mais les voies actuelles, c'est d'essayer d'augmenter les performances de ces structures en faisant par exemple des nanofils sur lesquels on va venir faire du dépôt de particules qui sont les particules sensibles à la lumière et qui vont convertir les photons en courant électrique. Et là encore, on utilise le fait que dans les nanofils, eh bien, la surface par rapport au volume est démultipliée de façon colossale. D'accord ? Et du coup, on va démultiplier autant l'efficacité de la conversion entre la lumière et l'électricité. Et puis, on peut récupérer l'énergie vibratoire, par exemple, en ayant des poutres encastrées comme ça, qui vont être mises en vibration par... les vibrations qui existent dans la nature, d'accord, et avec les films actifs tels que ceux que je vous ai décrits précédemment, les nanostructures actives à magnétostriction géante, venir récupérer cette énergie sous forme électrique. On a parlé de la partie communication. C'est très bien d'avoir des capteurs distribués comme ça, qu'on balance par hélicoptère et qui se distribuent partout, sauf que ce réseau, il faut qu'il s'organise. Contrairement à un réseau de téléphonie, où c'est les opérateurs de téléphone qui vont mettre les antennes et ils savent où, et donc ils savent comment les orienter les unes par rapport aux autres pour qu'elles communiquent entre elles. Quand vous balancez les capteurs comme ça dans la nature, ils tombent n'importe où et ils ne savent pas où sont leurs voisins. Et donc comment organiser la communication, ça c'est un sacré problème. Et par ailleurs, il faut que les antennes, a priori on pourrait prendre des antennes non directives qui vont émettre partout, comme ça on est sûr d'arroser un voisin qui serait à proximité, mais le problème c'est qu'énergétiquement on envoie beaucoup d'énergie partout et pas beaucoup à l'endroit où on veut. Donc on a intérêt à avoir des antennes directives, mais si on les veut directives, il faut qu'elles soient mobiles et qu'on puisse les tourner. D'où l'intérêt d'associer dans ces antennes des actionneurs qui vont être capables de tourner l'antenne, d'accord, dans les bonnes directions. Et là on va encore utiliser si possible des substrats souples, parce que évidemment l'actionneur, il va falloir qu'on minimise son énergie, et plus le substrat sera souple, plus ça sera facile de le déformer. Et puis par ailleurs, il faut des actionneurs qui, aux petites échelles, sont très puissants, par exemple ceux à magnétostriction géante que j'ai décrit précédemment. Alors, je quitte l'électronique, les environnements intelligents, et je vais parler un petit peu d'applications aéronautiques et automobiles. Alors, de ce point de vue-là, je vous présente tout d'abord le contexte avec une vision qui est la vision encore de l'Europe par un groupement qui s'appelle la CAR et qui a essayé d'imaginer ce que serait l'aéronautique en 2020, hein, donc les futures générations d'avions. Ils ont 63 pistes qui ont été évoquées et ici, je n'ai repris que celles qui ont une répercussion en termes de nanotechnologie. Alors, c'est quoi ces grandes... directions, orientations, c'est la réduction des coûts opérationnels. Ça veut dire qu'on veut vendre des avions moins chers, moins 30% qu'actuellement. On veut des coûts de maintenance réduits, moins 25%. Ça, c'est les objectifs chiffrés que la CAR a fixés. Et puis, on veut réduire la consommation en carburant de 20%. On veut réduire l'impact sur l'environnement en réduisant les bruits générés par l'avion. Ceux qui habitent près des aéroports, on en parlait ce midi. Donc, ils sont évidemment fortement concernés. Et puis, à l'intérieur de l'avion, pour le confort des passagers, on veut réduire les émissions de CO2, on veut réduire les émissions de gaz toxiques. Et puis, bien sûr, il y a un aspect sécurité qui est très important, avec une division par 5 du nombre d'accidents. Comment faire ça ? Eh bien, là, il y a quelques ingrédients. La première chose, c'est de réduire le nombre d'éléments constitutifs des structures qui constituent les avions. Donc, par exemple, en ayant des matériaux qui ne vont pas avoir une seule fonction, et chaque matériau, il faudra mettre plein de matériaux différents pour que chacun réponde à L'un, améliorer l'acoustique, l'autre, améliorer l'isolation thermique, la troisième, mécanique, etc. On va essayer de tout intégrer dans un seul matériau. D'accord ? Alors évidemment, les nanotechnologies vont aider à faire ça. Si on arrive à faire ça, immédiatement, bah, on va minimiser le poids, on va minimiser la quantité de matière et donc ça va réduire les coûts. D'accord ? On va immédiatement réduire l'impact sur l'environnement. Bah, si les fonctions acoustiques sont intégrées dans le matériau, bah, ça va réduire le bruit. Si ça pèse moins lourd, ça va réduire la consommation et donc forcément les gaz émis, etc. On va essayer d'augmenter les performances de ces matériaux. On sait qu'en chargeant des composites, par exemple, avec des nanotubes de carbone, on peut augmenter leur résistance, on peut augmenter leur durabilité. Mais après, on va voir que si on ajoute des éléments actifs, et on a vu que c'était possible dans les exemples précédents, on va pouvoir avoir des fonctions, comme par exemple l'autocicatrisation. C'est-à-dire que l'avion il a subi un impact, localement, l'aile d'avion est dégradée, et ben, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit capable de s'auto-réparer. Et puis, avec des matériaux à capacité thermique accrue, on va pouvoir améliorer le rendement des réacteurs et avoir immédiatement des impacts, de nouveau, sur tous les paramètres qui ont été mentionnés précédemment. On a parlé du poids, on peut le faire en réduisant le nombre d'éléments, mais on peut aussi avoir des matériaux qui, naturellement, eux-mêmes, hein, vont être plus légers. Et donc, on sait aujourd'hui faire, à performance égale, des matériaux qui pèsent moins lourd, hein, justement en les chargeant, c'est tout particulièrement le cas des nanocomposites, avec immédiatement les répercussions, donc encore une fois sur les points précédents. Et puis l'intégration de fonctions actives et intelligentes, notamment par le biais des microsystèmes et des nanosystèmes, avec là une influence sur la sécurité. Et vous voyez que dans tous les cas, les nanotechnologies sont un élément clé. Alors comment ça se répartit d'une façon plus détaillée sur un avion ? Bah, vous voyez hein, que, par exemple, par le biais des nanomatériaux multifonctionnels qui intègrent les propriétés mécaniques, isolation, etc., c'est surtout les ailes, le fuselage qui vont être concernés et on impacte directement tous les facteurs qui sont ici en augmentant la performance, diminuant le nombre d'éléments, le temps de production et le poids. Hein, et pareil, donc, avec des matériaux absorbants, des microcapteurs actionneurs, on va pouvoir faire du contrôle actif de vibration, par exemple, hein, quand ça vibre, générer une vibration qui est opposée en phase, de façon à ce qu'elle annule la vibration naturelle, faire des traitements de surface au niveau des vitres pour éviter la pluie, pour éviter la formation de glace, c'est aussi important au niveau des réacteurs, avoir une meilleure efficacité thermique, je l'ai signalé tout à l'heure, mais ça permet de diminuer le nombre de circuits de refroidissement dans le réacteur. Grâce à ça, bah, y a une économie directe sur l'élément, mais en plus, on va pouvoir avoir une meilleure efficacité dans le fonctionnement du réacteur et moins de gaz toxiques qui vont être créés, etc., etc. Comme vous voyez, la liste est longue. Je vais englober tout de suite l'automobile et je vous montrerai les exemples après parce que finalement, les exemples sont fédérateurs entre les deux applications. Et vous voyez qu'on peut reprendre la même idéologie et regarder quels sont les grands enjeux du secteur de l'automobile. Bah encore une fois, il faut réduire l'impact écologique, réduire la consommation, le CO2, et puis on va vers les voitures électriques et hybrides, c'est la grande mode actuellement. On va essayer d'augmenter la sécurité par la tenue de route, par des problèmes de vision, par l'amélioration des carrosseries, des pare-chocs en cas de choc. L'amélioration de la robustesse et de la maintenance en mettant des revêtements anti-corrosion, anti-rayures, anti-saleté. D'accord. Et puis encore une fois, l'autoréparabilité des carrosseries. Et puis on va essayer d'améliorer le confort hein, pour le plaisir des occupants. Alors tout ça, ça se décline ici en termes de produits. Hein. Bon, encore une fois, on va trouver les nanocomposites. On va y aller trouver, ça n'était pas dans la partie aéronautique, mais bien sûr que ça pourrait l'être aussi, c'est les éléments de lubrification pour augmenter le rendement de la chaîne de transmission. Parce qu'il y a d'énormes pertes à ce niveau-là. Les filtres à particules, bon, je ne vais pas revenir, ça a été longuement détaillé avant, l'amélioration des batteries, etc. Bon, la liste est longue. Et pour ne pas trop allonger cet exposé, je vais résumer par une phrase. Selon l'Institut des nanotechnologies, 70% des applications automobiles utiliseront les nanotechnologies en 2015. C'est eux qui le disent et vous avez ici, sous forme graphique, cette déclinaison. Alors, voici quelques exemples concrets. Par exemple, dans le domaine aéronautique ici. C'est du composite qui forme actuellement majoritairement ce qu'on appelle la peau des avions. Hein. Donc c'est de la fibre de carbone auto-assemblée avec un problème, c'est que les couches qui sont collées, en fait, elles peuvent se décoller et ça, c'est très embêtant. Alors, on peut bien mettre des rivets, mais le problème, c'est que quand on met un rivet, ça fragilise la structure au niveau du rivet et c'est pire encore que les décollements. Alors voilà, au MIT, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais ils ont inventé le concept de nanocouture avec des nanotubes de carbone. Et donc l'idée, c'est de mettre des nanotubes qui sont perpendiculaires, qui vont venir non pas percer les fibres de carbone, mais les fibres de carbone, il y a plein d'espace dedans. Et donc ils vont venir combler les trous, d'accord ? Puisque un nanotube, c'est 1000 fois plus petit qu'une fibre. Et donc c'est facile d'aller combler les trous et finalement faire de la rigidification de la structure. Et bien, en faisant ça, on arrive à avoir des collages qui sont 10 fois plus résistants que par les techniques actuelles. Et en plus, c'est l'effet bonus, eh bien, comme les nanotubes de carbone, c'est conducteur, avec une conductivité électrique qui est 10 puissance 6 fois plus grande que ce qu'on utilisait avant, eh bien, en même temps, vous avez la protection contre la foudre, c'est le 2-en-1 du système. Il y a des systèmes qui sont déjà commercialisés, par exemple dans le domaine des composites avec nanotubes de carbone ou des adhésifs. Vous avez ici une société qui s'appelle Civex Performance Materials avec un produit qui s'appelle Aerovex, qui est finalement de la fibre de carbone remplacée par nanotubes. Et en 2010, ça c'est 2010, hein, vraiment, c'est mars 2010, eh bien voilà, ils ont commercialisé le plus gros bateau du monde aujourd'hui, tout fibre carbone renforcée par nanotubes. Qui a la spécificité d'avoir un poids utile 3 fois plus élevé que des bâtiments du même encombrement que précédemment, un rayon d'action multiplié par 10, justement parce qu'il est beaucoup plus léger que les fibres de carbone classiques qui avaient été faites jusque maintenant. Alors ça, c'est pour du bateau anti-pirate, par exemple. Toujours 2010, cette société a passé un partenariat avec une très célèbre société de bateaux qui font du bateau de course, là, hein, qui s'appelle Outer Limits, pour faire, pareil, des bateaux de ce type avec le même système de résine avancée. Et puis, par ailleurs, toujours cette même société prône que au dernier championnat américain 2010 American Le Mans Series, qui a eu lieu en Floride, eh bien, une voiture d'une écurie est venue percuter les rambardes de sécurité et grâce à leur super colle dont le nom est ici, en moins d'une heure, ils ont réussi à réparer le truc, à refaire partir la voiture et ils sont arrivés en tête de la course grâce à une intervention ultra rapide. C'est pas moi qui le dis, c'est le site internet de la société. Dans le domaine des nanogels, là aussi, il y a des produits commerciaux, spécialement sur les pneus. Vous avez la société Lanxess, ici, qui produit un composant nanoprène, hein, qui utilise des additifs polymères de nanogels de particules organiques nanométriques. Vous avez ici ce machin avec des groupes hydroxyles au bout qui vont faire des liaisons polaires avec les caoutchoucs, finalement, des pneus. Et grâce à ça, bah, vous voyez, ici, vous avez une rosace qui est typique de ce qu'on voit en pneumatique. Assez souvent, on arrive à améliorer un des paramètres ici, mais au détriment des autres. Et vous voyez qu'ici, la très, très grande performance qui a été obtenue grâce à ces nanogels, c'est que vous améliorez tout. Ça veut dire la tenue de route quand vous êtes soit sur route mouillée ou soit sur route sèche, les effets d'aquaplaning, la résistance au roulement, etc. Tous les paramètres ensemble. Voilà. Il y a d'ailleurs des concurrents, ça c'est une société japonaise, mais on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis comme poudre de perlimpinpin, à part que c'est basé sur du silica, donc je ne peux pas vous dire beaucoup plus, si ce n'est qu'ils disent que grâce à eux, ils font des nanotechnologies et que c'est mieux. Alors, encore un autre exemple dans le domaine des nanorevêtements. Ici, c'est la fonctionnalisation des surfaces de type pare-brise. C'est de l'hydrophobe. L'avantage, si vous voulez, comme je l'ai montré tout à l'heure sur mes petites vidéos rigolotes, c'est que sans les nanorevêtements, bah, la goutte, elle colle. Quand vous avez le nanorevêtement, elle ne colle pas, elle roule. Et elle emmène avec elle bah, toutes les cochonneries qui sont dessus et les contaminants. D'accord ? C'est fait à base de nanoparticules de zinc, ces revêtements, et la société qui commercialise, c'est là. Toujours dans le domaine des revêtements actifs et à fonction spécifique, par exemple, on sait faire des capteurs de pression, des capteurs de température. Et grâce à ça, par exemple, sur cette maquette, en venant mettre une très très petite pellicule de ces revêtements actifs, eh bien, on peut faire une image optique de la distribution des champs de pression sur la maquette, d'accord, et pouvoir en soufflerie étudier où sont les fortes pressions, les basses pressions, et éventuellement, si on fait du contrôle actif là-dessus, ou est-ce que ceci a un effet et une performance importante. On a parlé tout à l'heure dans les exemples de tout ce qui est maintenance, et donc les aspects contrôle hein, des structures. On va vers du matériau composite avec du capteur actionneur intégré, par exemple piézoélectrique, pour faire par triangulation de la détection d'apparition de défauts temps réel. Aujourd'hui, un avion, on est obligé de le tester régulièrement. Pour ça, il est cloué au sol pendant qu'on vient avec des appareils balayer la surface de l'aile. Et évidemment, c'est tout autant de temps pendant lequel l'avion ne vole pas. Donc s'il est capable de s'auto-contrôler en temps réel, c'est beaucoup mieux. Et ces matériaux qu'on appelle parfois intelligents, d'accord, sont finalement une voie pour faire ça. Et puis une fois qu'on a détecté les défauts, il faut réparer. Et voilà par exemple un concept qui est développé par Thales Alenia Space, dans lequel une surface dégradée donc sur la peau de l'avion va être... On va venir détecter la localisation des défauts grâce à des matrices de capteurs. Ensuite, avec des actionneurs qui sont ici des éléments thermaux qui fabriquent de la chaleur localement, en venant chauffer, on va venir remettre en forme et réparer, finalement, auto-cicatriser la surface. On parlait de contrôle d'écoulement. Justement, par exemple, pour limiter les consommations de carburant des avions, des voitures, c'est la même chose. Par exemple, on sait que quand un avion prend des incidences importantes, c'est vrai au décollage, à l'atterrissage notamment, eh bien, l'écoulement se fait mal sur l'aile d'avion. Et à cause de ça, bah, finalement, on surconsomme. Et c'est aussi là qu'on va émettre plein de gaz polluants. Alors, une des idées, c'est de venir tapisser les ailes par des micro-actionneurs et des micro-capteurs. Par exemple, on peut faire des petits trous sur l'aile et venir souffler de l'air hein, par ces micro-orifices qui font moins du millimètre de dimension. Et donc, il faut imaginer que sous chaque orifice, il y a un actionneur. Et devant chaque orifice, il y a un capteur. Et tout ça, il faut que ça soit ultra miniaturisé. Eh bien, on peut venir contrôler l'écoulement. Et on peut avoir des réductions importantes. C'est typiquement 10% de réduction de carburant, ce qui est gigantesque hein, à l'échelle d'une compagnie aérienne. Alors ça, on sait déjà faire en soufflerie. Là, je vous montre des manips qu'on a faites nous-mêmes dans mon équipe, hein. Donc avec nos concepts de dispositifs. Une aile d'avion, ici, c'est une maquette d'assaut avec 30 valves qui sont les unes à côté des autres. Vous les voyez ici avec un zoom et l'élément important, c'est ce qui est là-dessous. Et puis ensuite, ça, c'est des photos de boue qui sont disposées sur les ailes. L'aile a une incidence qui est ici importante. Et en fait, cette boue permet de visualiser que l'écoulement d'air ici ne vient pas lécher la partie verte de la boue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un énorme décollement là, qui montre que l'air ne suit pas le profil de l'aile. Et par contre, quand on vient souffler avec les valves, ici, on voit très bien la trace de l'air. Ça veut dire qu'on a recollé l'air grâce à ces valves. Donc juste pour montrer que le concept marche en soufflerie. Alors maintenant, il va falloir rendre tout ça avionnable. On en a au moins pour 10 ans. Hein. La même chose sur voiture. Pour faire très vite, c'est exactement la même chose. Entre le toit et le haillon arrière, ça décolle. Ça induit une traînée qui est extrêmement importante et qui vous fait consommer beaucoup. D'accord. Si vous venez mettre une rangée d'actionneurs capteurs le long ici de la ligne de toit, vous pouvez recoller le fluide. Ici, il y a un décollement. Ici, c'est recollé. Ça, c'est quand on a utilisé nos valves. Et là, c'est quand on ne les avait pas utilisées. C'est mon dernier transparent avant la conclusion. Et je pense que je serai dans les temps. C'est une vue un peu futuriste. Et demain, des gens ont les idées les plus folles. Par exemple, celle-ci, c'est un challenge qui a été proposé par la NASA, lancé en 2005. Et le but, c'est de faire un ascenseur spatial avec un câble de 100 000 km de long qui part de la Terre au milieu de l'Atlantique sur une plateforme 1500 tonnes, elle est déjà même dimensionnée. Et ce grand câble de 100 000 km de long, il sera fait en nanotubes de carbone. Et le but, c'est de faire un ascenseur qui permettra de venir amener sur une station spatiale ce dont on a besoin. Alors, c'est complètement fou, mais ça n'empêche qu'il semblerait que ça ne soit pas totalement irréaliste. Et en tout cas, ça va servir de moteur pour la recherche parce que ce challenge est accompagné d'une récompense assez jolie, 50 000 $, à toute équipe qui aura amélioré d'au moins 50% la performance des câbles présentés l'année précédente. Et sachant que dans un premier temps, on se contente de faire 60 mètres de câbles, d'accord, pour un petit module qui va servir de simulation à cet ascenseur. En conclusion, vous voyez que les nanotechnologies, c'est beaucoup de nouvelles possibilités en principe, des champs applicatifs extrêmement vastes, évidemment je n'ai cité qu'un tout petit bout des choses, mais déjà avec une réalité industrielle, je vous ai cité des exemples où vous pouvez acheter. Et la grande question, est-ce que ça sera bien comme ça l'est annoncé la révolution du 21e siècle, de même que la microélectronique avait été celle du 20e siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Alors des réactions, questions ?
Oui, je vais bien me lancer. Merci pour votre exposé. Juste pour faire le lien avec l'exposé précédent, l'exposé de M. Dupré, j'ai noté que beaucoup de travaux étaient axés sur l'économie de carburant. Et puis vous avez présenté, juste de façon, je dirais presque un peu anecdotique, intransparent, où dedans il y avait de la récupération d'énergie, soit par la production d'énergie, soit par la voie lumineuse, soit par la récupération des phénomènes vibratoires. Et je me prenais à rêver d'un seul coup, alors j'ai peut-être eu un trou dans le suivi de votre exposé, je me suis pris à rêver d'un seul coup en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des capteurs spécialisés dans la production ou la récupération d'énergie par des nanomatériaux ou des nanotechnologies qui feraient développer au nom du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières et multiplier ou surmultiplier, arriver à nous produire suffisamment d'énergie pour actionner finalement des équipements classiques et en quelque sorte abandonner entre guillemets les énergies traditionnelles. Voilà, c'était le sens de ma question.
La question semble légitime et comme vous, j'ai rêvé à ça. Ceci dit, j'ai pas encore vu aujourd'hui, même pas dans les prospectives, d'idées aussi avancées finalement d'utilisation de multiplicité de capteurs d'ultra petite dimension et mis en commun pour aller actionner des structures gigantesques. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, même dans les prospectives, ça reste plus de la récupération d'énergie locale pour alimenter quelque chose de local et qui est dans des échelles pas trop lointaines. Donc typiquement, les nœuds de réseaux de capteurs communicants, où effectivement la récupération d'énergie, elle va alimenter le nœud lui-même. Bon, l'agrégation à une échelle aussi importante que ce que vous avez dit, j'ai pas encore vu, même dans les prospectives les plus folles, j'ai pas encore vu. Alors, est-ce que ça n'a pas été regardé? Est-ce que les gens ont regardé et ont écarté pour l'instant cette idée pour je ne sais quelle raison, je ne saurais pas le dire. Mais malheureusement, voilà, malgré mes.
D'autres, je voyais Yves qui.
Oui, d'abord, je voulais vous remercier vraiment pour votre exposé qui est venu se rajouter aux autres de la journée, qui nous a donné cette fois-ci un panorama extrêmement complet. Il nous a fait vraiment rêver. C'est toi qui avais parlé de révolution. Révolution. Là, c'est vraiment rêve et évolution derrière. Je voulais aussi mentionner qu'il me semble avoir vu passer certains travaux qui ont été faits en collaboration avec Poitiers.
Oui.
Le LEA.
Donc, tout à fait.
Bon, il faut savoir que Poitiers.
Tout ce qui était contrôle d'écoulement sur les ailes d'assaut, par exemple, les manips ont été faites chez Jean-Paul Bonnet.
Voilà. Et donc, je remercie Jean-Paul Bonnet qui est venu en vitesse tout à l'heure et qui a servi de lien pour vous faire venir. Et donc, je le remercie pour avoir joué ce rôle-là. On souhaitait avoir quelqu'un qui nous parlerait d'aéronautique, mais vous êtes allé largement au-delà et c'était très 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 intéressant. Donc en fait, pour moi, il y a quand même une question alors qui vient de la fin. Bon, il est rare que la NASA propose des projets vraiment complètement fous, quoi. Donc derrière, si on regarde plutôt à moyen terme, est-ce que vous voyez des applications autres que celles qui sont envisagées?
Vous voulez dire que l'ascenseur spatial?
Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'en intermédiaire, on n'a pas des visées?
Si, bien sûr. Alors justement, bon, j'avais hésité parce qu'il existe des choses assez abondantes sur les projets que la NASA a impulsés dans le domaine des nanotechnologies pour le spatial cette fois-ci. Simplement, j'aurais explosé le temps aujourd'hui si j'avais abordé ces sujets-là, donc je m'étais limité à aéronautique automobile. Mais exactement comme j'ai présenté pour l'aéronautique et pour l'automobile, un champ avec une vision à 20 ans de ce qu'on peut imaginer que serait le secteur, la NASA a fait exactement le même travail. Et il existe sur Internet, vous pouvez le trouver assez facilement les uns les autres, comme je l'ai fait moi-même, cette vision perspective. Et ensuite, comment ça impacte en termes de projets précis derrière, finalement, les champs de recherche qui vont être financés finalement par notamment le gouvernement américain, mais pas seulement. Voilà. Et vous avez exactement... Comme j'ai présenté l'avion avec tout autour tout un tas de trucs, hein, bah vous avez une fusée et une navette spatiale, avec tout autour de nouveau tout un ensemble d'éléments nanotechnologiques qui vont servir pour des choses très 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 concrètes sur ces objets spatiaux de demain. Et pour lesquels, finalement, ça sert de base à la définition des projets recherche qui seront financés. Alors, on va retrouver des choses, d'ailleurs, qui sont très comparables à ce qu'il y a là. Hein. C'est-à-dire que ce que j'ai montré, typiquement, on va essayer d'alléger, donc on va aller vers du nanocomposite. Typiquement, on va mettre de la céramique qui résiste à haute température et les charger par de la nanoparticule ou des nanotubes. Ça permet d'avoir des capacités d'encaissement thermique qui sont bien supérieures pour une finesse de matériaux qui est plus faible, etc. Donc, on va retrouver ces choses-là. On va essayer de lutter contre les aspects d'agressivité de l'environnement, donc c'est les problèmes de formation de glace, etc. Finalement, dans presque chaque champ, on revient à peu près aux mêmes ingrédients. Après, il y a quelques spécificités, mais on retrouve quand même une grande partie des choses, hein, et c'est pour ça que l'automobile, l'aéronautique, je les avais un peu fusionnés ensemble, et après j'ai décliné, parce que finalement les nanocomposites, ça sert pour l'un, ça sert pour l'autre, et ainsi de suite. J'aurais même pu le faire pour le spatial. Donc vous avez tout à fait raison, ça existe, c'est facile à trouver, et à la limite, si on voulait compléter cet exposé, il faudrait l'ajouter. Quoi. L'année prochaine.
En ce qui concerne les développements, certains développements nécessitent quand même, parmi les capteurs, les actionneurs, des conditions assez dures de, je dirais, d'environnement, température. Moi, je me souviens qu'un certain nombre de capteurs avaient été essayés à l'intérieur même des cylindres automobiles. Bon, on fait beaucoup d'études en laboratoire avec des moteurs transparents. Le moteur ne peut pas être transparent quand il est dans la réalité. Par contre, certaines personnes souhaitaient avoir des capteurs qui soient placés, je dirais, sous la peau des cylindres, en fait, dans des endroits qui sont normalement inaccessibles. Qu'en est-il exactement actuellement? Est-ce qu'il y a des essais de capteurs vraiment pouvant fonctionner à des très hautes températures, sous des très hautes pressions, dans des conditions un petit peu dures, quoi?
Alors, je n'ai pas forcément la réponse à cette question parce que mon domaine n'est pas encore tout à fait là-dedans. Ce que je peux dire simplement, c'est que je sais que la recherche sur les capteurs qui fonctionnent dans les environnements très agressifs et particulièrement haute température est une recherche qui est très développée. Pas chez nous, mais je sais qu'elle l'est ailleurs. Il y a notamment une filière silicium carbone, SIC, hein, qui est justement faite pour les hautes températures.
Et elle est où, cette filière?
Alors, je sais que Grenoble, au Laetitia, travaille là-dessus. Je sais que aussi les industriels de l'automobile, Bosch et autres, ont une activité qui est extrêmement intense sur ça. Les gens de l'aéronautique et du spatial, oui, et notamment pour les entrées dans l'atmosphère où ils sont confrontés à ces problèmes de température. Les gens de, par exemple, les motoristes de l'aéronautique, donc Rolls-Royce, NECMA, MTU et Fiat et les autres, ont une recherche sur ces sujets-là. Mmh. Alors, est-ce que les solutions existent aujourd'hui? Je ne crois pas, en tout cas, c'est pas sur étagère, ça c'est sûr. Par contre, qu'il y ait de la recherche sur le sujet, c'est sûr. parce que c'est vraiment un domaine où il y a un besoin gigantesque. Gigantesque.
Voilà. Parce que les contrôles moteurs, actuellement, c'est,
bah,
c'est,
la difficulté,
c'est en avant et en arrière. Quoi, hein.
La difficulté, c'est que si on reprend un petit peu l'histoire des nanotechnologies, vu l'électronicien, hein, parce que bien sûr, que ce soit les chimistes, les biologistes, c'est d'autres approches, mais vu des électroniciens qui sont en principe ceux qui feront, qui ont le métier pour faire les capteurs, tout est parti du silicium. Et le problème, c'est que le point de fusion du silicium, ce n'est pas élevé, quoi. C'est quelques centaines de degrés. Donc, dès qu'on atteint les milliers de degrés qu'on a dans des environnements comme ça, ça ne tient plus. Et finalement, ça n'est que beaucoup plus récemment que les gens ont commencé à s'intéresser à aller vers d'autres matériaux que le silicium, mais sachant que quand l'électronicien quitte le silicium, il doit tout apprendre. Voilà. Et c'est ce qui fait que toutes ces choses un peu more than more, donc multifonctionnalité qui associe au silicium des tas d'autres matériaux. Il faut comprendre que chaque fois qu'on prend un nouveau matériau, il faut réinventer toute la technologie qui va avec. Okay. Et ça devient vite très compliqué et surtout très long.
Une dernière question. Juste sur les matériaux auto-cicatrisants, on en est au stade développement et j'ai un peu faim. Un peu de mal à imaginer un tel matériel comme ça, auto-cicatrisant. On va avoir une cicatrisation qui est limitée également. Quoi. Je veux dire, c'est reculé un peu, mais ça ne va pas être à l'infini, cette auto-cicatrisation. Donc, ça repose aussi le souci de détecter quand ça...
Alors, de ce que je connais sur l'auto-cicatrisation, il y a deux voies. Il y a celle des polymères, où finalement, on chauffe et puis... Le petit trou, sous réserve qu'il ne soit pas trop grand, va se recombler, hein, simplement parce qu'on a fait fondre localement. Et puis voilà, quoi, hein. L'autre approche, c'est les matériaux actifs type mémoire de forme. Voilà, donc, typiquement, le pare-choc qui a été tordu par un choc. Et ensuite, en faisant chauffer l'élément, par l'effet mémoire de forme, on arrive à le faire revenir dans l'état qu'il avait appris initialement. Hein, bon, c'est les deux voies que je connais. Donc, dans le premier cas, évidemment, c'est que local, parce que si c'est un gros trou, ça ne marche plus. Hein. Dans le deuxième cas, bah, c'est toujours pareil, si vous avez complètement cassé le matériau, même l'effet mémoire de forme, bah, jamais faire revenir le système complètement. Donc, forcément, il y a des limites.
Oui, au sujet de la cicatrisation des... Ouais. J'ai vu passer dans le journal du CNRS une annonce de la mise sur le marché par Arkema d'un caoutchouc auto-cicatrisant qui était assez impressionnante d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion d'aller le voir sur internet. Ça se présente sous la forme d'une rondelle de caoutchouc un peu élastique qu'il coupe, hein, et une heure plus tard elle est à nouveau rondelle.
Ah oui,
et c'est à base de liaison hydrogène.
Effectivement, j'avais oublié cet exemple que j'avais vu moi-même à la DGA quand il y avait les journées de la DGA, parce qu'ils ont été primés pour ça. Oui, c'est vrai. Mais...
On est encore loin de la science-fiction de Drexler et compagnie, là, avec... les nanorobots qui peuvent créer de la matière, des objets à partir de briques élémentaires, etc. quand même.
Oui, je crois qu'on est encore assez loin. Oui. Mais parfois, la science-fiction dépasse la réalité aussi à l'envers. C'est-à-dire que c'est dans des champs où l'imagination n'était pas allée que tout d'un coup, la réalité fait sortir quelque chose qui, à la limite, parfois, si on le présentait sans dire que c'est un résultat, les gens n'y croiraient pas, en disant c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Et non, c'est déjà réel. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, il y a des choses qu'on a imaginées où la réalité n'est pas encore arrivée, mais à la fois, non, parce qu'il y a déjà des endroits réels et qui dépassent la science-fiction de loin, déjà.
Et inversement, je crois qu'aujourd'hui, on imagine, je reviens toujours, excusez-moi, mais... Je représente ici un peu la partie environnementale, mais ce côté sanitaire. On imagine certaines applications. J'ai bien noté que vous parliez de balancer par hélicoptère ou disperser par hélicoptère des dizaines de milliers de capteurs. Il y aurait peut-être que le capteur intelligent dans cette affaire-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut faire attention à ce que notre imagination soit aussi à un moment donné contrôlée et collectivement, et bien faire attention à ne pas faire à se prendre à trop rêver et à ne plus avoir de limites dans l'application du rêve. Autant il ne doit pas y avoir de limites dans le rêve, autant dans l'application du rêve, il faut faire extrêmement attention, me semble-t-il.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout que le silicium, finalement, c'est assez polluant.
Je pense qu'il y a un livre assez récent qui s'appelle justement « Limits », dans lequel on parle de ce fameux ascenseur spatial.
Bah d'ailleurs, j'ai feuilleté les livres qui sont sur les tables donc à l'entrée de cette pièce. Et y en a un qui est édition du CNRS. Si vous le feuilletez, l'ascenseur spatial est dedans. D'ailleurs, certaines choses dont j'ai parlé également.
Encore merci pour cette présentation.
Merci.
Qu'on va vous proposer, c'est de poursuivre tout de suite avec Stéphanie Lacour. Donc, il était normalement prévu une petite pause. On va enchaîner et poursuivre tout de suite. Donc, Stéphanie Lacour est chargée de recherche au CNRS. Alors, dans une unité mixte qui est à la fois sur Ivry et sur Poitiers. Donc, juste quelques mots. Donc, en 2007-2008, Stéphanie Lacour donc, avait été mise à disposition donc, de l'OCDE en tant que consultante dans un groupe de travail donc, sur les nanotechnologies. Et elle est également donc, sur l'Île-de-France responsable du bureau Nanosciences et Sociétés donc, dans CNano. Et puis depuis quelques mois, et je pense qu'elle va l'évoquer donc, dans son exposé, elle coordonne un programme de recherche donc, Nano-Norma. Et donc, on va plus s'intéresser ici justement à l'aspect régulation des nanotechnologies. Et c'est aussi un petit peu finalement une transition vers la journée à venir du mois de décembre, où on parlera plus des aspects sociétaux. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse, enfin, je vous demande de m'excuser parce que j'aime pas arriver très en retard dans les conférences et j'avais prévu d'assister à toute la journée. Bon, des petits contretemps en termes de transport m'ont empêché de le faire. Hein. J'ai au moins eu l'occasion d'écouter les intervenants de cet après-midi, c'est toujours ça. Juste un mot, donc effectivement, je suis chargée de recherche au CNRS. Le bureau Nanosciences et Sociétés du CNNO Île-de-France est une spécificité du centre de compétences en nanosciences de l'Île-de-France. Depuis 2006, et dès que le centre de compétences qui réunit donc tous les chercheurs en nanosciences de la région Île-de-France a été créé, on a créé parallèlement aux axes thématiques de ce centre de compétences un bureau Nanosciences et Sociétés qui réunit des chercheurs en économie, en éthique, en philosophie, en droit, en sociologie, et puis dans toutes les disciplines de nanosciences pour réfléchir ensemble à l'endroit vers lequel on souhaitait aller collectivement. Voilà. Alors la régulation des nanotechnologies, je ne sais pas comment ça fonctionne moi cette histoire, comme ça, voilà. D'abord, pourquoi est-ce que je parle de régulation, ce qui n'est peut-être pas évident pour une juriste, hein, et pourquoi est-ce que je ne vous parle pas de droit applicable aux nanotechnologies, ce qui aurait pu sembler plus naturel. Parce que pour le moment, de droit, on n'en a pas encore véritablement, et puis surtout parce que les nanotechnologies, c'est un domaine qui bouge beaucoup, tous les exemples qui ont été donnés dans l'après-midi le prouvent, hein, et étant donné que ça bouge beaucoup et très vite, hein, il est difficile de fixer les choses par des réglementations qui, par vocation, ont besoin d'être permanentes et générales. Donc on va essayer de régler la vie collective autour de ces technologies mais d'une manière un tout petit peu plus souple. Hein. Le droit va concourir à cette régulation, mais ça ne sera qu'un des moyens de la régulation. Alors pourquoi est-ce qu'on pense à réguler les nanosciences et les nanotechnologies ? Parce qu'on a globalement deux forces un tout petit peu contraires. D'un côté, une volonté de développer la recherche et développement en nanosciences et nanotechnologies, parce qu'on a une compétition scientifique et économique au niveau international très forte sur ces domaines-là, parce qu'elles sont présentées comme la révolution industrielle du XXIe siècle, parce qu'au niveau européen, on nous explique quand même depuis quelques années que nos innovations d'aujourd'hui feront nos richesses et nos emplois de demain, donc il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la recherche. Et puis, de notre côté, on a quand même un certain nombre de préoccupations sur d'éventuels risques sanitaires et environnementaux, sur le fait qu'on a adopté au niveau européen, et c'est vrai aussi en France, hein, j'y reviendrai, le principe de précaution et que, en présence de risques éventuels, il faut se poser un certain nombre de questions. Et puis, on se dit collectivement, dans à peu près tous les gouvernements dans le monde, hein, on a commis un certain nombre d'erreurs avec les biotechnologies et les OGM. On n'a pas suffisamment associé le public à leur développement et à la réflexion sur ce qu'on voulait en faire. On ne veut pas renouveler ses erreurs avec les nanotechnologies, donc on va essayer d'associer la société bien plus en amont qu'on ne l'a fait par le passé. Et tout ça, ça mène à la promotion par les États et les organisations internationales de ce qu'on appelle le développement responsable des nanos. Ça, c'est au niveau international, et puis en France, on parle de développement responsable. Au niveau européen, on parle d'approche sûre et intégrée du développement des nanos, mais ça revient à peu près au même. Alors, qui joue dans ce grand terrain de jeu ? J'en ai répertorié quatre parties différentes. Vous avez effectivement les chercheurs et les organismes de recherche qui constituent un des acteurs importants de ce jeu-là, avec une crainte permanente quand on intervient en tant que juriste pour aller discuter avec des chercheurs, qui est la crainte d'atteinte à leur indépendance, à l'indépendance de la recherche. Attention, vous venez mettre le nez dans ce qu'on fait, les chercheurs sont indépendants, laissez-nous faire ce qu'on veut dans nos labos, puis vous régulerez après. C'est entre autres pour ça que j'ai demandé à parler sur les applications, parce que le droit, il a surtout vocation à intervenir à ce moment-là. N'empêche qu'on se mêle aussi un peu de ce que font les chercheurs. Puis, en ce qui me concerne, je suis chercheur aussi, donc ça me concerne assez directement. Ils ont une autre peur, les chercheurs, c'est la peur de l'amalgame. Et ils critiquent très souvent le fait qu'on parle de nanotechnologie et qu'on mette dans le même sac les nanoparticules, les nanomatériaux avec des problématiques sanitaires et environnementales bien particulières. Et de notre côté, la nanoélectronique, qu'ils voudraient bien voir placée sur un autre terrain, comme ne soulevant pas les mêmes problèmes vis-à-vis de la société. Deuxième groupe très actif dans ce domaine-là, les industriels. Et là, c'est assez difficile de se faire une idée de ce qu'ils pensent, parce que c'est très très variable. Globalement, ils n'ont pas de position commune. D'ailleurs, ils se sont bien écharpés l'an dernier. Au MEDEF, ils avaient fait une session dans leur école d'été sur les nanos, et ça a donné lieu à des débats assez vigoureux, on va dire. On a une partie des industriels, particulièrement dans l'agroalimentaire, par exemple, qui nie totalement avoir recours aux nanoproduits de nanotechnologie. On a une partie des industriels qui explique qu'ils en utilisent certainement, c'est le cas par exemple pour l'industrie du pneu, ils en utilisent certainement, ou du moins ils réfléchissent à en utiliser. C'est le discours de Michelin, ça, par exemple. Mais ce n'est pas encore tout à fait fait. C'est public, ça a été dit dans les débats publics organisés par la CNDP, donc là, je ne dévoile rien de secret. Et puis, on a une partie des industriels, typiquement les gens qui travaillent dans les matériaux, l'industrie chimique, et qui développent des nanomatériaux, par exemple Arkema, qui développe des nanotubes de carbone, qui, eux, ont une position très volontariste et qui communiquent beaucoup sur une demande de davantage de régulation pour plein de raisons. D'une part, pour des raisons d'éthique entrepreneuriale, on va dire. Et puis, d'autre part, parce que si on met beaucoup de réglementations, on écarte les petits concurrents aussi. Il faut penser à ça quand on écoute ces discours-là. Troisième partie en présence, les publics, les consommateurs, les citoyens, les patients. Et là, là on a affaire à des publics qui sont moins passifs qu'ils ne l'ont été par le passé, qui ne sont plus dans l'attente béate d'une révolution technologique, mais qui sont un tout petit peu plus critiques vis-à-vis de ce qui se passe dans les laboratoires, critiques vis-à-vis des choix économiques et sociétaux qui sous-tendent ces recherches, et puis de leurs résultats. Et puis les autorités publiques, les États, région, l'Union européenne, qui cherchent davantage que par le passé à piloter la recherche et l'industrie, comme quoi les chercheurs n'ont peut-être pas tout à fait tort d'avoir peur pour leur indépendance. Mais c'est une réalité. Et tout ça, ça amène les chercheurs en sciences humaines et sociales à se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas mettre en place une nouvelle forme de gouvernance de la science, des applications technologiques, puisqu'on est quand même dans un secteur où science et technologie sont très proches dans le temps l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et puis, de manière plus générale, de nos politiques scientifiques et technologiques. À l'heure actuelle, en ce qui concerne la régulation, on a un certain nombre d'acquis sur lesquels je vais passer assez rapidement, et puis on a quand même des problèmes qui demeurent assez importants. Alors les acquis, c'est pour vous montrer qu'on ne reste quand même pas les bras croisés. On fait des choses. Alors ça, c'est au niveau européen. Depuis 2004, on balance des communications, des stratégies, des recommandations, des travaux du Parlement et de la Commission à peu près dans tous les sens. On a même un code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et en nanotechnologie. On a des programmes de recherche sur, sur projet extrêmement ambitieux et on investit massivement à l'heure actuelle. Si on cumule l'aide accordée par l'Union européenne et les États européens, on donne très largement autant que ce que donnent les États-Unis. Donc on n'est pas ridicule du tout hein, en matière de financement de la recherche. On a mis en place des plateformes de recherche, des programmes thématiques très ciblés. Et puis on a lancé des expertises à tout va sur le médicament, sur l'éthique, le GE, c'est le comité européen d'éthique. Le CENIR, c'est les risques émergents. Donc, on a déjà plusieurs expertises du CENIR sur les nanomatériaux, nanoparticules, sur les produits de consommation, sur la sécurité alimentaire. On a beaucoup, beaucoup d'expertises sur ces domaines-là, qui disent à peu près toutes la même chose, pour qu'on s'entende bien, hein, qui vont à peu près toutes chercher ce qui a été fait par ailleurs, en font un recensement et disent ben, « on ne sait toujours pas ». Mais bon, on se pose au moins la question. En France, de la même manière, on a saisi à peu près tous les comités et agences d'expertise possibles, hein, le comité de la prévention et de la précaution, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité éthique du CNRS, le comité consultatif national d'éthique, le comité économique, social et environnemental, puisqu'on lui a rajouté un E, le Haut Conseil, là j'ai inversé de lettres, le HCSP, Haut Conseil de la Santé publique, le CNC, Centre national de la consommation, qui est en train de finaliser lui aussi un rapport. Bon, là aussi, hein. Et puis je vous ai mis les différents comités et agences qui ont été saisis, mais l'AFCET, par exemple, a rendu 3 rapports depuis 2006 sur les nanos. On a créé des pôles de structuration de la recherche. Donc, je vous ai parlé des CNANO pour vous parler du Bureau d'Innovation et Société, mais aussi des pôles de compétitivité, des RTRA, des centrales technologiques. Le dernier grand plan en date dont on a beaucoup parlé en 2009, c'était Nano Innov, avec une volonté de relancer une recherche beaucoup plus finalisée, avec une grosse critique sur les chercheurs français qui font de bonnes recherches mais qui brevettent pas assez. Des programmes de recherche ambitieux depuis assez longtemps, un groupe ministériel interservice qui se pose des questions sans parvenir à trop répondre, mais bon, qui se pose des questions depuis 2006, des débats publics en nombre, à tel point qu'on s'est même demandé à un moment s'il n'y avait pas beaucoup plus de débats publics que de publics pour les nanos, mais il y en a eu. Hein. Le dernier en date, vous avez dû en entendre parler, c'était le débat organisé par la Commission nationale du débat public, qui s'est clos fin février, le 23 février de mémoire, et qui a rendu son rapport très récemment. Des lois en cours, la loi Grenelle 1 contenait un article qui parlait des nanos sur lequel je vais revenir, hein, et la 2 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 11 mai qui doit passer en commission mixte paritaire contient également un article là-dessus, et puis une norme technique en cours, l'Agence française de normalisation s'est saisie du sujet de la mise sur le marché responsable des nanotechnologies. Et au niveau international, ben de la même manière, on n'est pas du tout resté les bras croisés. L'Office européen des brevets a créé un groupe de travail. On a mis en place un processus de dialogue international sur les nanotechnologies en 2004, qui est le processus d'Alexandria. L'ISO, c'est-à-dire l'organisme international de standardisation, a mis en place un groupe de travail lui aussi. L'UNESCO a publié un rapport. Et l'OCDE a 2 groupes de travail sur les nanotechnologies depuis 2006 et 2007. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Quand on regarde tout ça, ben, on réalise que ce soit au niveau national ou international, les pouvoirs publics semblent bien avoir pris conscience de l'ampleur des défis que suppose l'idée de développer les nanos de manière responsable. On a des stratégies extrêmement ambitieuses en termes de financement des recherches. C'est l'avenir de nos pays, donc on va financer ça de manière massive. Mais on a bien conscience des risques, donc on va répartir équitablement les financements entre la recherche et développement sur les nanos et puis la recherche sur les risques et l'impact sociétal des nanos. Et en termes d'information du public, ça c'est affirmé dans toutes les stratégies nationales, internationales, on a de très très beaux discours là-dessus. En pratique, ben, la traduction concrète de tout ce qui est annoncé, elle reste assez parcellaire. Le financement des recherches est très important dans les nanos, mais enfin, il faut quand même relativiser ce que ça représente par rapport à ce qu'on investit, par exemple, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La répartition des financements entre recherche et développement des nanos et recherche sur les nanos, et éventuellement leurs risques, est loin d'être satisfaisante. À l'heure actuelle, on est à peu près autour de 3% hein, qui sont investis dans la recherche sur les risques, hein, des montants de recherche globaux. Et puis l'information du public, eh ben, on a l'impression qu'on a beau faire beaucoup de débats, beaucoup d'informations, du moins essayer, le niveau moyen de connaissance sur ce sujet-là, il n'a pas énormément évolué. Je suis la première à m'en désoler, hein, mais c'est une réalité. Alors, comment est-ce que tout ça se présente ? Ben, la Commission européenne, notamment, le présente de manière particulièrement claire. Elle nous explique que les instruments juridiques qui permettent d'encadrer le développement responsable existent, et d'encadrer les risques, donc, existent. Il n'y a donc pas de problème avec la réglementation. Mais, parce qu'il y a toujours un mais tout de même, que cette réglementation doit être considérée de manière large. Autrement dit, elle fonctionne souvent comme un exposé de principe. Il faut respecter le principe de précaution, par exemple. Et puis, d'autres formes de régulation, par exemple des documents techniques qui vont venir préciser bah, pour tel nanomatériau, ça va être un seuil, hein, tel seuil. Et que ces documents techniques, c'est... éléments de régulation supplémentaires, hein, bah, ils ne sont absolument pas adaptés à l'heure actuelle à la prise en compte des spécificités des nanoparticules et des nanomatériaux. Alors voyons ce que ça donne avec REACH. Là-dessus, je passe très rapidement. Vous pourrez revenir vers moi si vous voulez en discuter. Mais, REACH, le principe, hein, vous avez dû en entendre parler, c'est un grand règlement européen qui a été adopté à la fin de l'année 2006. Et qui a emporté une révolution, alors là pour le coup une vraie révolution dans le domaine de la prise en compte du risque chimique en Europe. Jusqu'à REACH, globalement, ce qu'on avait au mieux, c'était des industriels qui mettaient des produits chimiques sur le marché et des États qui essayaient de parer le risque et de faire des études sur le risque. À partir de REACH, la philosophie de la réglementation change complètement. Elle devient... Elle met désormais à la charge de l'industriel l'obligation de prouver, avant de mettre sur le marché, quel est l'impact en termes de risque de son produit. Est-ce que je me fais comprendre ou pas du tout ? Ouais. Donc il y a vraiment une grande nouveauté dans REACH, c'est d'une part, on s'appuie sur le principe de précaution, c'est-à-dire si on ne sait pas, on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait avant même de savoir. Et d'autre part, ce qu'on appelle en droit... un renversement de la charge de la preuve, hein, c'est-à-dire que la preuve du risque ne repose plus sur les épaules des États, mais des industriels. Et c'est vraiment... bon, on a mis 9 ans à l'adopter REACH, hein, donc c'est pour vous dire que ça a donné lieu à quand même une activité de lobbying extrêmement importante, parce qu'il y a de gros enjeux derrière. Alors, REACH s'applique aux substances chimiques. La question devient donc... est-ce que les nanoparticules et nanomatériaux, qui ne sont pas visés spécifiquement par REACH, on a essayé d'insérer des amendements au moment de l'adoption du règlement, mais ce n'est pas passé, est-ce que ce sont des substances chimiques ? A priori, oui. On peut tout à fait les qualifier de substances chimiques, donc a priori, ils ne sont pas exclus. Mais sont-ils des substances chimiques au sens de REACH ? Ça devient un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Bah parce que qu'est-ce que la réglementation européenne qualifie de substances chimiques ? Ce sont des éléments chimiques, par exemple le carbone, et leurs composés, par exemple le dioxyde de titane. Point. Et cette définition exclut un certain nombre de substances, hein, par exemple les substances radioactives qui font l'objet d'exemptions, mais aussi des substances qu'on considère a priori comme inoffensives, hein, par exemple le graphite pendant longtemps, puis ça a été modifié récemment. Et des substances qui ont déjà été enregistrées. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, si vous déposez une déclaration dans le cadre de REACH pour du carbone, bah c'est fait. Vous n'avez pas besoin de déposer une déclaration pour du nanotube de carbone ou pour du fullerène. On enregistre ces substances, toutes les substances, à condition qu'on les produise à partir d'une tonne par an et par producteur ou importateur. Ça fait beaucoup hein, pour des nanoparticules. On produit un rapport un tout petit peu conséquent sur la sécurité chimique uniquement à partir de 10 tonnes par an et les informations véritablement vont devenir intéressantes et vont impliquer de réelles études de toxicologie et d'écotoxicologie à partir de 100 tonnes. Et puis enfin, on a ce qu'on avait par le passé, une liste de substances qu'on considère a priori comme très ou extrêmement préoccupantes, hein, qui elles vont faire l'objet d'une procédure d'autorisation, dans laquelle ne sont pour le moment pas mentionnées les nanoparticules nanomatériaux. Je passe rapidement là-dessus, parce que c'était un tout petit peu long à expliquer. Alors, en quoi est-ce que ça pose un problème pour les nanoparticules et nanomatériaux ? Ben, de manière assez évidente, hein, parce que la problématique toxicologie ou écotoxicologie des nanoparticules ou des nanomatériaux, elle n'est absolument pas liée à leur masse, hein, mais à leur forme, hein, à leur taille et surtout à leur surface. Le seuil qui a été fixé donc, d'une tonne, il n'est absolument pas pertinent pour ces objets-là. Le seuil de production va en outre très souvent être inférieur à la tonne. Globalement, à l'heure actuelle, on ne produit au-dessus de ce seuil-là que les nanotubes de carbone, le dioxyde de titane, la silice et le nano-argent. Tout le reste passe sous le seuil, donc ne sera pas examiné dans le cadre de REACH. Quand on dépasse ce seuil, on le dépasse souvent de pas énormément, donc on peut toujours s'arranger entre producteurs pour se répartir la charge, hein, et rester en dessous de la tonne. Hein. Et en tout cas, en dessous des 10 tonnes, seuil au-delà duquel on vous demande un rapport sur le risque chimique. Et puis surtout, la philosophie même du texte, elle ne comprend pas la spécificité des nanoparticules, des nanomatériaux. Hein. Et notamment, tous les effets de surface sont écartés. Bien. Alors, on a posé la question à l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, qui est en charge de l'application de cette réglementation. Est-ce que REACH s'applique aux nanoparticules ? Dans un premier temps, la réponse a été oui. On peut enregistrer la nanoforme d'une substance comme une partie de l'enregistrement de la forme macro. Bon. Ce qui revenait à dire oui mais non. Ça, c'est un tout petit peu affiné en décembre 2007, et c'est toujours valable à l'heure actuelle, avec toujours la même question, est-ce qu'on applique REACH aux nanosubstances, aux nanoparticules, nanomatériaux ? Oui. Et là, on a l'emploi d'un très très beau conditionnel. S'il est établi que la substance tombe dans le champ de REACH, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, pour les substances radioactives qui font l'objet d'exemption, s'il est établi qu'elle tombe bien dans le champ de REACH, des investigations supplémentaires dans le cadre de REACH pourraient indiquer qu'il faudrait se pencher davantage sur les risques et les dangers associés à la taille particulière des particules. Donc globalement, oui, si on a envie. C'est un peu mieux. Enfin, on travaille beaucoup à ça, hein, mais ça n'a pas encore évolué. Ce qui manque de manière générale, et ce que disent tous les rapports d'expertise sur les nanoparticules, nanomatériaux, c'est qu'on n'a pas de terminologie normalisée dans le domaine des nanoparticules et des nanomatériaux, et que donc, avant de pouvoir réglementer de manière efficace, il faudrait savoir de quoi on parle, et pour le moment, ce n'est pas évident. Si Eric Gaffet était venu aujourd'hui, et il avait vraiment préparé de quoi venir, donc c'est bon, c'est comme ça, il aurait pu vous expliquer que, par exemple, pour caractériser une nanoparticule, on en est à l'heure actuelle à se dire qu'il faut à peu près 15 éléments différents de caractérisation pour arriver à un classement à peu près fiable et qui aura des conséquences intelligentes en termes de toxicologie. Donc ça fait beaucoup d'éléments à intégrer dans la réglementation et on en est très loin. On n'a toujours pas de méthodologie éprouvée et validée d'évaluation des risques spécifiques et on manque d'informations en provenance des producteurs. Ça aussi, il pourrait vous le dire, pour avoir travaillé sur les rapports de l'AFCET, quand on demande aux producteurs ce qui sort de leurs usines en matière de nanomatériaux, nanoparticules, on a énormément de mal à obtenir une réponse. Donc je vous le disais, on a des grands principes, ça il n'y a pas de problème, on a des exposés de principes juridiques qui nous expliquent qu'il faut faire attention et qu'on ne peut pas négliger des risques éventuels. On a des éléments techniques qui ne sont pas adaptés du tout à la prise en compte de la spécificité des nanoparticules et des nanomatériaux. Alors dans ces grands principes, on a le fameux principe de précaution, puisqu'on veut promouvoir pour la recherche et pour la commercialisation des nanoparticules, nanomatériaux et de manière générale des nanotechnologies, des règles qui soient conformes au principe de précaution, Le principe de précaution, vous l'avez là. La France est le seul pays qui l'a constitutionnalisé quand même. Donc il faut savoir qu'on est un des pays qui, au moins dans son affichage, tient le plus au principe de précaution. Qu'est-ce que ça donne en pratique ? D'une part, est-ce qu'on peut l'appliquer en présence de technologies qui touchent autant de champs d'application ? Vous avez vu les applications qui ont été présentées cet après-midi, c'est rien par rapport à ce qu'il y a déjà sur le marché. Hein. Est-ce qu'on peut l'appliquer strictement ? Et puis, à minima, quelle procédure d'évaluation des risques mettre en œuvre pour l'appliquer au nano ? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce qui est présenté de manière universelle comme la solution en matière de développement responsable, à savoir mettre en œuvre des politiques de financement de recherche sur les risques, d'une part, ça n'est pas fait, et d'autre part, ça ne va pas suffire à répondre à l'ensemble des problématiques. Alors, en France, on essaie d'aller un peu plus loin. Le Grenelle de l'environnement a orienté l'État français vers l'édiction d'une loi spécifique sur les nanoparticules. On parlait de nanoparticules, nanomatériaux dans les débats du Grenelle. C'est devenu les substances à l'état nanoparticulaire dans le texte de loi. Donc ça, c'est le texte de la loi du 3 août 2009 qui programme la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Je passe rapidement, vous aurez les diapos de toute façon. Hein. Et ça, c'est le texte qui a été adopté le 11 mai dernier, qui est la loi portant engagement d'application du Grenelle de l'environnement. Donc c'est le texte qui a un degré de précision supplémentaire et qui nous dit que les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenu dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité d'information du public, l'identité, les quantités, les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées. Si j'ai mis en rouge dans un objectif de traçabilité d'information du public, c'est parce que ça a été rajouté lors des débats parlementaires. Bon, ce texte, il pose quand même un certain nombre de questions. D'une part, parce qu'il a énormément évolué entre les travaux du Grenelle, qui était présenté comme une initiative de démocratie participative unique dans son genre en France. Quand on regarde ce qui est sorti des travaux du Grenelle et des tables rondes du Grenelle et le projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement, il y a un monde. Et notamment, on a vu apparaître une terminologie totalement surprenante. Alors ça, moi, quand je suis face à ce genre de texte, je me pose d'abord la question de savoir est-ce que pour moi, en tant que juriste, parce que c'est des juristes qui vont devoir l'appliquer, hein, a priori c'est un magistrat qui un jour va devoir sanctionner sur cette base-là. Donc est-ce que pour un juriste, substance à l'état nanoparticulaire, particulier, ça veut dire quelque chose ? Je vous réponds tout de suite, non. Donc, à peu près comme n'importe qui, je me tourne vers, souvent Éric Gaffé, puisque je le connais bien. Allô Éric, explique-moi ce qu'est une substance à l'état nanoparticulaire. Particulier. Et là, il s'embarque dans une explication assez compliquée, dont il ressort que ça va être très difficile à appliquer pour un magistrat, et puis surtout, par acquis de conscience, parce que je ne fréquente pas que des physico-chimistes, je fréquente aussi des physiciens purs et durs, je demande à des physiciens qui me donnent une autre définition. Parce que l'état, par exemple, de la matière, pour un physicien et pour un chimiste, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, ça n'a pas énormément de sens pour les experts scientifiques, et ça n'a pas de sens pour le droit. C'est un problème, hein. Quand on veut être le premier pays au monde à adopter une réglementation, la baser sur un terme qui n'a de sens pour à peu près personne, hein, c'est compliqué. Alors pourquoi on a adopté ce terme-là et pas celui de nanoparticules, par exemple, hein, ou nanomatériaux ? Parce qu'on voulait parler de substances. Et pourquoi est-ce qu'on voulait parler de substances ? Parce qu'un des buts de la manœuvre des lois Grenelle, c'est essayer de faire évoluer REACH. Et de faire en sorte qu'au niveau européen, on se pose collectivement la question de savoir si les substances nano ne sont pas des substances d'un type particulier. N'empêche qu'en l'état, on n'a toujours pas fait évoluer REACH, et au niveau français, on s'est mis dans les pattes quelque chose de particulièrement malaisé à interpréter. Je ne vous parle même pas des matériaux destinés à rejeter de telles substances. Il y a une notion de volonté du matériau qui est assez impressionnante, là. Parce que, par exemple, des pneus ne sont pas destinés à rejeter des nanoparticules. Hein. Ils en rejettent. une sécurité juridique assez problématique. Alors ça, c'est très visible quand on a des phrases du type « conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ben », vous imaginez le magistrat qui va être placé face à la question « est-ce que un pneu qui s'use sur la route, hein, ce sont des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ?» Un pneu qui s'use sur une route, on peut penser que oui, mais les métaux lourds, les métaux précieux qui s'échappent des pots catalytiques, par exemple, dont on parlait en début d'après-midi, c'est moins évident. Hein. Et surtout, si ce sont des matériaux destinés à rejeter. Les pots catalytiques, ils ne sont pas destinés à rejeter des produits. Les notions d'information du public et des consommateurs. Alors, il y a le public et de l'autre côté, les consommateurs. Ce n'est pas les mêmes. La notion d'identité, d'usage, d'information disponible, c'est particulièrement flou. Et puis surtout, en l'état, ce texte, on ne sait absolument pas, et a priori, j'aurais tendance à répondre non, s'il est conforme au droit communautaire. C'est-à-dire que si ce texte est adopté, il va l'être, hein, c'est une question de jour maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va remonter à la Commission européenne, hein, qu'à la Commission européenne, on va se demander s'il ne s'agit pas d'une entrave à la libre circulation des marchandises, et qu'étant donné qu'à l'heure actuelle, les substances chimiques ne font pas l'objet d'une réglementation aussi contraignante dans le cadre de REACH, pour ce qui concerne les nanoparticules et les nanomatériaux, on va certainement nous dire « attention, votre texte, il n'est pas conforme au droit communautaire ». Donc notre seule chance, et je pense que c'était la carte que jouait l'État français, hein, c'est essayer de faire évoluer la réglementation européenne avant qu'on nous retoque notre loi. Et puis dernier problème, et pas des moindres, ce texte il a été présenté partout, et c'était la volonté du Grenelle de l'environnement, d'adopter une obligation de déclaration des quantités des nanoparticules et nanomatériaux produits, importés et distribués, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui est mis sur le marché, tout simplement. C'est un vrai problème. On n'arrive pas à le savoir. On a lancé tout un tas d'expériences de déclaration volontaire de la part des industriels, en leur envoyant des questionnaires, en leur demandant ce qu'ils produisaient, et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait absolument pas. Quand l'AFCET demande aux industriels de participer à ces expertises, c'est une obligation légale hein, de participer, elle a 8% de réponse de la part des industriels. C'est pour vous donner une idée de ce que ça représente. Quoi. Donc on met en place quelque chose qui va forcer la déclaration, et on oublie quand même un élément un tout petit peu important, du moins aux yeux du juriste, c'est qu'on vous dit vous allez avoir l'obligation de déclarer, mais on oublie la sanction. Une obligation sans sanction, c'est une déclaration volontaire. Ni plus ni moins. Hein. Surtout quand on emploie des termes qui font qu'au final, eh ben, on ne sait pas trop ce qu'on doit déclarer. Alors, ça, c'est ce qui se passe en France. Au niveau européen, c'est aussi assez drôle. Hein. On a deux grands camps. D'un côté, la Commission européenne, pour qui tout va bien, Madame la Marquise. Hein. Et de l'autre côté, le Parlement européen, pour qui tout va mal. La Commission européenne, je vous ai donné sa position, hein, la réglementation existe, n'ayez pas peur, braves gens. Le Parlement européen, lui, il tape un tout petit peu, il va dans le sens d'une définition de ce dont on parle, par exemple nanomatériaux fabriqués, et puis il explique que la Commission fait n'importe quoi. Hein. La résolution sur les aspects réglementaires des nanomatériaux, là, notamment la dernière dont vous avez les références que vous pouvez aller chercher, le Parlement ne se prive pas d'aligner la Commission européenne, puis dans des termes particulièrement soutenus, pour le dire gentiment. Le problème, c'est que, bah, par exemple, sur deux propositions de règlement différentes, hein, la proposition sur les produits cosmétiques qui a été adoptée et qui va être applicable hein, aux nanoparticules et aux nanomatériaux dans les produits cosmétiques en 2013, et puis la proposition sur les nouveaux aliments qui n'a toujours pas été adoptée, on a réussi à adopter deux définitions différentes au niveau du Parlement européen. Donc on a très envie, mais on met un tout petit peu la charrue avant les bœufs, là. C'est compliqué. Les problèmes en suspens. Bon, ben, vous avez vu que le plan de mon intervention était tout de même un tout petit peu retors, puisque je vous ai dit que j'allais vous présenter tout ce qui était réglé dans un premier temps, puis les problèmes en suspens, mais enfin, quand je vous ai présenté ce qui était soi-disant réglé, il y avait quand même beaucoup de problèmes dedans. Les problèmes en suspens, eh ben, ils sont liés au fait qu'on a une incertitude dans le champ des nanotechnologies de manière générale, qui est technique. on ne sait pas à quel risque on s'expose. Pour le moment, c'est une réalité. Qui est sociale, on ne sait pas de quels objets on parle, et c'est un vrai problème. Ça, pour les juristes, c'est un problème, en tout cas. Et je pense que ça en est un. C'est, par exemple, ce qui est ressorti du débat public organisé par la CNDP, il y avait principalement ça. On ne sait pas de quoi on parle, et on ne parle clairement pas tous de la même chose dans cette pièce. Donc c'est ennuyeux. On ne sait pas de quoi on parle, et puis on ne sait pas du tout où on en est, si c'est fabriqué, si c'est déjà sur le marché. Alors, on a des inventaires. Par exemple, l'inventaire du Woodrow Wilson Institute for Scholars aux États-Unis, qui donne à peu près 1200 à leur actuel produit mis sur le marché au niveau mondial. C'est un inventaire qui est fait à partir des affirmations des industriels. Donc vous avez dedans des produits qui sont affirmés comme contenant des nanotechnologies ou fabriqués à base de, ou en tenant compte des innovations, mais qui n'en contiennent absolument pas. C'était le cas pour le Magic Nano qui a fait un grand scandale à l'époque en Allemagne, alors qu'il ne contenait absolument pas de nanoparticules, nanomatériaux. Et puis vous avez, hors de cet inventaire, des produits qui en contiennent effectivement, mais qui ne le mettent pas sur leur notice, ou qui n'en font pas la publicité. Et puis on a une incertitude quand même en termes d'organisation, d'institution, qui décide où on va, c'est pas très clair. Et puis comment on y va, c'est encore moins clair. Pour le moment, tout le monde se tire un peu dans les pattes et on sait pas trop où on va. Et puis le cadre de la régulation, le cadre normatif, des normes applicables, il est foisonnant. Il y a des normes techniques, on en prend à peu près dans tous les sens, tout le monde y réfléchit. Il y a des avis d'experts, d'éthique, etc. Des réglementations existantes. Mais finalement, ce qu'on peut se demander surtout, c'est est-ce qu'il est réellement contraignant ? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde un tout petit peu à part qui fait que pour le moment, ça se développe un peu dans le Far West ? Il faut donc réévaluer la norme juridique dans sa temporalité. Il ne faut certainement pas attendre. Et si on attend, qu'est-ce qu'on attend ? Dans son champ, est-ce qu'on adopte une norme pour toutes les nanotechnologies ? Ça ne va pas être évident. Ou est-ce qu'on adopte, c'est ce qu'on est en train de faire, des normes pour la protection des travailleurs, la protection des consommateurs, la protection, le développement des pots catalytiques, parce qu'on a des choses de cet ordre-là. Est-ce qu'on adopte une norme pour les nanotechnologies ou pour les nanoparticules, nanomatériaux ? Ce sont quand même des thématiques un tout petit peu différentes. Et puis, dans ces modèles, il faut la réévaluer. Quelle forme juridique on adopte ? On a essayé le code de bonne conduite avec un résultat assez moyen. Quel recours à quelle expertise ? C'est-à-dire, c'est bien beau de demander l'avis des experts, mais d'une part, est-ce que les experts scientifiques peuvent se prononcer sur l'ensemble des conséquences de l'arrivée d'une technologie de ce type-là, aussi large et aussi générique sur la société ? Ou est-ce qu'il faut faire appel à d'autres experts, par exemple au grand public, qui est un expert de la vie en société lui aussi, à sa manière ? C'est ce qu'on a essayé de faire en France avec un résultat pas génial. Et puis, quelle démocratie ? Parce que pour le moment, tout ça se fait de manière un tout petit peu opaque et que c'est gênant au niveau démocratique. Voilà, donc, une espèce de bilan des problématiques en suspens. La réglementation, est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle est souhaitable ? Si on estime qu'elle est souhaitable, est-ce qu'elle doit s'appliquer aux nanoparticules, aux nanomatériaux ou à toutes les nanosciences et nanotechnologies ? Est-ce qu'on peut l'ouvrir davantage à des préoccupations qui ne sont pas naturellement celles des experts scientifiques ? Comment est-ce qu'on renouvelle les cadres de l'expertise pour tenir compte du fait que ça va être difficile, par exemple, tout de suite de fixer un seuil, ici ? Faute de terminologie technique stabilisée et de terminologie scientifique stabilisée, comment est-ce qu'on se réfléchit à la manière dont on doit encadrer, dont on doit normaliser un domaine ? Dernier problème et non des moindres, c'est bien beau de dire qu'il faut davantage de recherches sur les risques, mais on a un tout petit problème en termes d'effectifs en France et en Europe pour la recherche sur les risques. Et tout ça, vous en trouvez des détails dans le bouquin que j'ai sorti cette semaine. Je l'ai reçu, moi, mon exemplaire auteur, celui-là, lundi. Donc il n'est pas encore en librairie. Mais il y sera très prochainement et puis vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez besoin.
Merci. Alors, Yves.
Merci pour cette présentation. Je voulais juste vous demander, vous avez évoqué les textes de loi, mais en France, on est aussi les spécialistes pour ne jamais sortir des décrets d'application. Donc il y a en plus des risques que vous avez dictés, celui-là. C'est-à-dire qu'on ait des textes, finalement, qui ne soient jamais appliqués. On a le cas des lois de bioéthique dont on a parlé ici à plusieurs reprises, où on est resté coincé pendant plusieurs années.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la diapo parce que l'article du projet de loi de Grenelle 2 est très très long. Donc ça devenait illisible au bout d'un moment. Mais il prévoit effectivement que, par exemple, des détails aussi insignifiants que la sanction ou à qui faudra-t-il déclarer et tous les combien seront prévus par décret. Et le décret, entre nous, moi, ce que je vois venir dans l'immédiat là, c'est un décret qui va nous dire assez rapidement, parce qu'il va falloir présenter les résultats de ce que l'État a compris du débat public. Et que annoncer qu'on va adopter un décret d'application, c'est une forme de résultat particulièrement flagrante. On vous a bien écouté, donc voilà le décret qu'on prépare depuis 3 ans quand même. Mais bon, c'est un autre problème. Dans ce décret-là, on va annoncer qu'on crée une institution quelconque qui va servir à recevoir les déclarations. Et puis, dans le décret en question, une fois qu'on aura dit on crée l'institution qui va permettre de recevoir les déclarations de substances à état particulier, dont les modalités de création seront fixées dans un décret d'application.
Oui, ça me rappelle l'utilisation des organismes génétiquement modifiés en recherche. On a été typiquement dans cette démarche-là et où finalement même au sein des laboratoires, on ne savait plus trop quoi faire. Parce que est-ce qu'il fallait déclarer, est-ce qu'il fallait ne pas le faire? Finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler sans déclarer. Et il n'y a jamais eu de sanctions, il n'y a pas eu de conséquences. Et ça date d'il y a 20 ans.
Mais c'est un vrai problème. En termes démocratiques, c'est un vrai problème. Quand on affirme en plus vouloir être l'ange blanc du développement responsable d'une technologie, bon, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses d'engager en termes d'inventaire en France ou en Europe? Puisque finalement, en attendant, ça avance, quoi. Est-ce qu'il y a des choses?
Mais je vous dis, il y a soit des démarches venant d'organismes ou d'institutions qui font la démarche, eux, d'aller chercher l'information. C'est le cas du Woodrow Wilson Institute. Mais qui affirme lui-même, si vous allez sur le site du Woodrow Wilson, ils expliquent comment ils construisent leur inventaire et ils vous disent eux-mêmes, on est obligé de se fier à ce qui est affiché par les entreprises qui déclarent produire des nanoproduits. Et donc, notre inventaire, il est nécessairement partial et partiel. Et on a lancé beaucoup d'initiatives. L'OCDE en a lancé, l'État français en a lancé, c'était le ministère de l'Industrie, l'Union européenne en a lancé, de déclarations volontaires, c'est-à-dire on a vraiment sollicité les industriels pour savoir ce qui était sur le marché. On n'a jamais obtenu, par exemple, une réponse de l'industrie agroalimentaire dans ce cadre-là. Et même quand on leur met vraiment les points sur les i en leur disant, écoutez, il n'y a pas moyen de la silice, il y en a à peu près dans tous les aliments, et la silice qui est à l'heure actuelle dans tous les aliments, c'est de la nanosilice, on le sait, l'industrie agroalimentaire continue à répondre, oui, mais pas vraiment, et puis elle s'agglomère, et puis... Et c'est le fait qu'on n'obtienne pas de réponse est aussi très lié au fait qu'on ne soit pas capable aujourd'hui de définir ce sur quoi on veut une réponse. Si on n'est pas capable de dire ce qu'on cherche, ce sont des nanomatériaux et pas leurs agglomérats, par exemple, ou et leurs agglomérats, on n'obtient pas la même réponse, nécessairement. Donc tant qu'on est dans le flou, chacun botte en touche. C'était assez prévisible. Regrettable, mais prévisible.
Oui. Dans une diapositive, là, je vous avais noté deux choses, deux difficultés, dont une qui m'est particulièrement sensible. Alors j'ai bien noté qu'effectivement, SLBABA, pas de terminologie normalisée, ça c'est évident. Tant qu'on n'aura pas avancé sur cette question-là, on n'avancera pas du tout sur le dossier, je pense. Et vous avez dit, pas de protocole spécifique pour l'évaluation des risques. Mais pour pouvoir procéder et mettre en place un protocole d'évaluation des risques, il manque une intermédiaire, c'est de définir une métrologie. Or, on ne sait pas mesurer, on ne sait pas évaluer, enfin, on sait les mesurer dans des laboratoires, mais dans des conditions telles qu'elles sont impensables à généraliser. Et ça me fait poser la question que j'ai posée peut-être un peu brutalement ce matin, mais que je vais peut-être réexpliquer un peu plus en détail. Faut-il une norme au sens a posteriori de la production, ou faut-il une AMM, une autorisation de mise sur le marché, au sens du principe de justification, c'est-à-dire une autorisation de mettre sur le marché après expertise, expertise sociale, expertise économique, expertise sanitaire, expertise environnementale, et j'en passe et des meilleurs. Et peut-être que le principe de justification qui serait appliqué sous réserve qu'on ait réglé la question effectivement de la terminologie, d'une terminologie normalisée, serait peut-être pour les laboratoires et peut-être même pour les industriels un cadre régulateur suffisamment fort pour qu'ils puissent, ça ne soit pas une astreinte ou une restriction pardon, de la liberté d'entreprendre, mais qui serait parallèlement une liberté de non-entreprendre dans des secteurs dangereux socialement, économiquement, sanitairement, environnementalement. Voilà, c'était un peu le sens de ma question. Régulation a posteriori ou a priori, enfin, ou a priori quoi.
Mais vous mettez le doigt sur la question. Hein. Quand je parlais d'incertitude et de difficulté d'appliquer le principe de précaution, ce que vous présentez comme le principe de justification, c'est le principe de précaution au final. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas encore exactement quels sont les risques, mais ne partons pas bien en tête sans réfléchir. Et mettons en place des procédures qui permettent de parer ces risques éventuels. Alors, on a effectivement une limite du principe de précaution, qui est que, d'une part, il a été prévu uniquement en matière environnementale, même si la jurisprudence l'a étendu à l'heure actuelle aux impacts sanitaires. Ça ne pose aucun problème au niveau de la Cour de justice des communautés européennes, y compris en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État l'ont étendu aux questions sanitaires. Mais ça ne prend pas en charge, par exemple, les questions sociales, le principe de précaution. Ceci dit, on a de la doctrine qui commence à proposer ça. Et ceci dit, on n'a pas uniquement de la doctrine juridique qu'on pourrait suspecter d'être très intéressé par une évaluation sociale, parce qu'on est des chercheurs en sciences sociales. Mais on a aussi, par exemple, le dernier rapport de l'AFCET, qui est un rapport d'expertise scientifique, là-dessus, il n'y a aucun doute, hein, qui tire l'alarme en disant, écoutez, on n'a pas d'informations sur la toxicologie des produits qu'on a regardés, là, TiO2, nanotubes de carbone, nano-argent. On n'a pas d'informations sur la toxicologie et l'écotoxicologie, pas suffisamment. On a des produits qui sont envisagés comme étant éminemment utiles. Et puis on a aussi des produits qui sont envisagés comme un tout petit peu bling-bling, pour dire les choses comme elles sont. Hein. L'exemple typique qui a été évoqué en long, en large et en travers dans les débats, c'est les chaussettes au nano-argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avant de mettre ça sur le marché, et le calcul, l'AFCET a calculé, c'est Eric Gaffet qui l'a fait, le calcul exact du nombre de tonnes de nano-argent qui allait être libéré, rien qu'en lavant ces chaussettes régulièrement sur la base d'une paire de chaussettes par personne, en les changeant tous les 3 jours, enfin je sais pas, il a fait un calcul d'une complication extrême, pour arriver à des chiffres impressionnants, sachant qu'on ne sait absolument pas quel va être l'impact environnemental. Est-ce que là, une évaluation sociale du besoin collectif de chaussettes au nano-argent ne serait pas une réaction pour le moins raisonnable, hein. C'est une vraie question et qui est de plus en plus soulevée non seulement par des chercheurs en sciences sociales, mais par des chercheurs en sciences dures et des experts. Le problème, c'est que ça, à mettre en place, c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué et en outre, c'est totalement contraire à toute la construction de l'espace européen. Hein. Il faut être honnête. On s'est engagé depuis le traité de Rome dans une philosophie qui dit on met sur le marché, on réfléchit après. Et le principe, c'est la liberté du marché. Les éventuelles répercussions, on récupère comme on peut après. Là, ça reviendrait à dire quelque chose qui est totalement hérétique dans le cadre d'un développement qui est libéral. On a beau le tourner dans tous les sens, c'est la jolie main invisible du marché qui va régler le tout. Qui reviendrait à dire, avant de mettre sur le marché, avant de laisser faire cette main invisible qui est censée régler l'ensemble des problèmes de la société, il faudrait collectivement se poser la question de savoir si on en a besoin. C'est pas fait. Hein.
Alors, si vous le permettez, moi, j'avais bien parlé du principe de justification, que je sépare bien du principe de précaution, qui sont deux notions différentes. Le principe de justification, il existe, me semble-t-il, dans un seul et unique domaine actuellement industriel, qui est le domaine de la radioactivité, dans le domaine de la radioprotection. On ne peut pas mettre sur le marché un produit dont l'utilité sociale, économique, etc. ne serait pas justifiée au regard des risques santé qu'il procure. Donc le principe de justification n'est pas quelque chose qui n'existe pas. On a donc, je dirais entre guillemets, une jurisprudence. Le principe de précaution est à un autre niveau, me semble-t-il. Il est effectivement sur la gestion de risques incertains et d'adapter une réponse à effectivement cette incertitude. Moi, j'étais bien resté sur, puisqu'on parle de régulation et non pas d'effet de risque, des choses comme ça. Le principe de justification, c'était un mécanisme régulateur en amont et non pas un mécanisme régulateur en aval, si je puis dire, a posteriori. Donc j'avais bien séparé les deux notions.
Oui, oui, non, mais j'entends bien. On a des démarches hein, qui ne portent pas le même nom, mais qui sont de même inspiration, par exemple, avec les médicaments. Et c'est d'ailleurs, moi, une de mes grandes frustrations. C'est-à-dire que dans les débats publics ou dans les conférences que je peux faire de manière assez régulière sur ces domaines-là, en général, vient à un moment ou à un autre la question du nanomédicament, qui évidemment doit guérir le cancer, donc est attendu. On nous a fait la même chose avec les biotech. Hein, Donc on l'attend. Et en outre, il bénéficie d'un argument supplémentaire, l'argument massu. Et en plus, là, ça craint rien parce qu'on a déjà des autorisations de mise sur le marché et des procédures extrêmement lourdes. Et objectivement, quand on ne sait pas faire de la métrologie sur des nanoparticules, quand on ne sait pas avoir des méthodologies standardisées de toxicologie sur des nanoparticules, on ne sait pas le faire non plus sur du médicament. Donc l'autorisation de mise sur le marché, elle doit aussi être repensée pour prendre en compte les spécificités des matériaux en question. Mais pour le moment, ce discours-là, il passe absolument pas. Hein. La dernière fois que je l'ai tenu, on m'a accusé de vouloir tuer la moitié de la population française qui avait besoin d'un traitement urgent. C'est difficile à faire passer. C'est un domaine dans lequel on a encore... Donc, si vous voulez, ce principe de justification, ça devient à contrario en principe de « laissez-moi faire ce que je veux hein. ». Oui.
J'entends bien. Oui, donc, dans le Grenelle de l'environnement 2, récemment, ce principe de justification, mais je veux dire... employé à l'inverse, il va exister pour les pesticides dangereux. Et le retrait d'un tel pesticide, quand bien même on aurait prouvé sa dangerosité, ce qui est pas loin d'être le cas pour un certain nombre de pesticides, hein, eh bien, il faudrait se soumettre à une appréciation socio-économique.
Il y a quand même un problème.
Ce qui fait que dans le même texte de loi, il y a...
Oui, hein, mais de manière générale, et c'est un des défauts du rapport de l'AFCED de la même manière, on envisage l'évaluation sociale du risque autour de l'idée on va peser, faire une balance bénéfice-risque. Le problème, c'est que sur ces technologies-là, et sur une partie des pesticides, le risque, il n'est pas évalué. Donc comment est-ce que vous pouvez, de manière physique, hein, mettre sur une balance un plateau où on ne sait pas quoi mettre hein, et des bénéfices qui sont en général présentés comme mirobolants. Il y a un problème, hein, y compris dans la manière de penser l'évaluation sociale des technologies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler la gouvernance. Hein. Ce sera plus simple d'établir cette balance une fois qu'on aura passé le cap, et c'est-à-dire une fois qu'on aura des résultats. Ça commence à être le cas, par exemple, avec le nano-argent, où là, on commence à se dire « bon bah, c'est un biocide ». Et il y a quand même une grande partie de notre système, par exemple, de retraitement des eaux usées, qui est basée sur la nécessité de faire manger les cochonneries par des petites bactéries. Si on balance des biocides dans ces systèmes-là, ça ne marche plus. Donc ça va avoir une répercussion qui, là, pour le coup, est aisément compréhensible et facilement mesurable à terme. Hein. Enfin, facilement mesurable à terme, en tout cas. Là, on va pouvoir commencer à faire une évaluation bénéfice-risque. Et c'est d'ailleurs à ce sujet-là que l'AFCET avance l'idée d'analyse socio-économique. Quand on est dans le risque incertain, c'est très compliqué.
Je reviens deux secondes sur la question du médicament, puisque c'est une question qu'on a abordée ce matin, tout à fait en début, après mon exposé. Et là, en réalité, on rebondit sur une autre question, qui est, par exemple, le fait de faire évoluer les procédures concernant les essais cliniques, précliniques, cliniques, et les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Et là, on est face à un monde qui est très, très statique, et on aura beaucoup, beaucoup de difficultés à faire évoluer ces essais. Alors, bon, ici, on traitera de la thématique essais sur animaux, mais il y a bien d'autres aspects qui sont derrière. Et pour connaître le monde de la pharmacie, je sais que c'est le monde qui bougera le plus difficilement.
Et qui bougera le plus difficilement avec l'assentiment du grand public.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Alors même qu'on pourrait attendre que ce soit celui qui prenne le plus en considération ces problématiques-là. Mais bon, il y a de gros enjeux quand même dans la pharmacie.
Tout à fait.
Il n'y a pas que dans la nano-électronique et sur les phoques catalytiques qui a... Ouais.
Ceci dit, si vous demandez aux Parisiens qui prennent le métro à 6h du soir s'ils sont pour ou contre les chaussettes au verre d'argent, vous avez la réponse. Oui, la notion d'utilité sociale est une notion
compliquée.
Bien, je vais devoir interrompre, ne serait-ce que pour que vous puissiez prendre un train. Je vais simplement conclure en quelques secondes. Nous avons eu une journée très très riche avec des présentations en plus qui étaient vraiment compréhensibles par tous, et ça c'est vraiment un objectif, et donc ça c'est très bien. Alors bon, moi je reste toujours fasciné par ce monde, et notamment par le fait que les chercheurs sont toujours en train d'inventer des nouveautés, puisque là aujourd'hui on parlait d'applications. Et je suis tombé sur une information récente des collègues biologistes qui aujourd'hui ont appris à faire de l'origami, donc du pliage japonais, avec des molécules d'ADN. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais dans l'article que j'ai vu, la question c'est que ça servira à quelque chose, et en particulier, ça rejoint l'exposé de Philippe Pernaud, vraisemblablement dans les applications, ce seront des nouveaux fils moléculaires qui serviront sans doute dans les ordinateurs et en informatique à l'avenir. Donc on va dire que cette histoire-là, bon, on me rend à la fois optimiste et pessimiste, c'est-à-dire qu'on fait souvent des choses sans trop savoir ce que ça va donner. Le vrai problème dans le monde des nanotechnologies, c'est que beaucoup se saisissent de ces objets-là sans trop savoir ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'on a des applications sans connaître les conséquences sociétales, les impacts, etc. Donc c'est un débat sans fin. Et ça va très 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 vite. En tout cas, merci pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à présent. Ça s'est un peu vidé dans l'après-midi, je suis désolé. Et c'est le mois de mai. Mais en tout cas, merci à tous et à la prochaine.